Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Tech Café, c'est votre podcast qui vous fait le tour de toutes les news qu'il ne fallait pas rater dans la tech durant les 7 derniers jours. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver et je suis également ravi de retrouver Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va pas mal. Mon four vient de tomber en panne et j'ai pété mes lunettes. Donc comme tu vois, ma vie est fascinante.
Effectivement, plein de dégâts matériels, j'espère que ça va s'arrêter là et que ton ordinateur ne va pas lâcher pendant l'enregistrement, ce serait dommage quand même. N'attirons pas la poisse. On va changer un petit peu le format des choses, parce que j'ai des petites discussions avec des personnes qui nous écoutent, Guillaume, et on fera évoluer peut-être le format, on prendra le temps d'y travailler, mais on va tester des petites choses. Et au lieu de passer du temps tout de suite à vous lister les liens, etc., qu'on va vous redonner par la suite, on va plutôt attaquer tout de suite les news et sans autre forme de procès commencer tout de suite à vous parler d'ailleurs d'une breaking news ou de l'info Perro, donc la petite info qu'on va vous présenter en quelques minutes avant d'attaquer les grandes rubriques de news qui ont été préparées une fois de plus par Guillaume Poggiaspala. Et cette info, c'est une annonce qui a été faite aujourd'hui, qui fait suite à pas mal de périodes de rumeurs, et c'est Nintendo qui annonce un nouveau produit qui est la Switch Lite. C'est une Switch qui est différente de la Switch habituelle par trois grandes différences. La première, c'est qu'il n'y a plus les Joy-Con amovibles. La deuxième, c'est qu'elle ne peut plus être branchée sur la télé, du tout. Et la troisième, c'est que, outre quelques éléments de design en général qui changent, l'écran est plus lumineux. Voilà, il a la même résolution, il est un peu plus petit, 5,5 pouces contre 6,2 pouces pour la Switch classique, mais un écran un petit peu plus lumineux. Nouvelle couleur avec une édition spéciale Pokémon bouclier et épée qui arrivera au même prix que la Switch Lite, donc tout ça étant dispo dans quelques mois. J'ai pas relevé d'ailleurs, c'est septembre, non, octobre ? Le 20 septembre. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de cette Switch Lite ?
Mais écoute, j'adore. Moi, je suis très, très, très preneur. Je sais pas si tu l'as dit, elle est moins chère aussi. Elle coûte $100 de moins, puisque c'est $300 le prix nominal de la Switch, et c'est $200 le prix nominal de la Switch Lite. Donc il y aura trois couleurs, toujours 32 gigaoctets effectivement de stockage, donc c'est pas énorme, mais voilà, il y aura une autonomie légèrement supérieure, mais pas énormément, mais c'est toujours beau à prendre. Et elle sera un peu plus compacte effectivement qu'une Switch avec ses Joy-Con, mais bien entendu, comme tu l'as dit, elle perd la compatibilité télé, donc pas de compatibilité dock, pas de branchement à la télé, il n'y a plus de Joy-Con, il n'y a plus non plus ce petit capteur infrarouge aussi, ça c'est fini, donc il y a des jeux qui ne seront pas compatibles, hein, comme par exemple One to Switch sera pas compatible, et il n'y a pas non plus le retour de force haptique, tu sais, haute résolution, comme ils appellent, voilà, ça sera...
Que bien fait lui.
Lui, il est bien fait, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage, c'est peut-être la chose qui, moi, me manquerait le plus, ouais, il aurait peut-être pu le mettre, parce que moi, c'est peut-être le truc que j'aurais trouvé vraiment plus agréable, mais bon, on va pas se mentir, hein, la Switch Lite, c'est la mort de la 3DS, hein, la 3DS agonisait petit à petit, comme ça, elle s'acheminait vers la sortie, quoi. Puis bon, là, c'est un grand coup de pied au cul, et c'est pas mal, parce que franchement, moi qui ai beaucoup, beaucoup aimé la Vita, hein, vous le savez sans doute, c'est vraiment la remplaçante, quoi. 5 pouces 5, 720p sur 5 pouces 5, comme ça, avec la puissance de la Switch Lite. Vraiment, je pense que ça va être vraiment très très cool, et ouais, moi je suis très très preneur, comme Jean-Marc Généreux pourrait le dire, j'achète.
Bien joué. Non, je crois qu'il y a deux cas d'usage assez incontournables. C'est bon, si vous aimiez l'univers de la Switch, de Nintendo, etc., mais que vous n'aviez pas d'enfants, vous n'aviez pas forcément vocation à mettre sur grand écran les jeux pour les partager en famille, etc. Donc si vous êtes plus un gamer plus solitaire, entre guillemets, c'est vrai que ça se prête plutôt bien. Et puis tu parlais d'un cas d'usage. Alors bon, faut avoir un peu plus le budget, mais si les parents veulent pas être embêtés par leurs enfants et qui jouent dans leur chambre tranquillement à une console. Bon, le cas d'usage typique de la Nintendo 3DS, hein, du coup de la DS, c'est le remplacement parfait. Est-ce que finalement le but c'est pas de remplacer et la console principale avec la Switch la Game Boy, Nintendo DS, enfin toute cette gamme de portables qu'ils ont su bien installer dans le temps avec la Switch Lite? Et du coup, est-ce que le mot-clé Switch n'était pas un mot-clé prévu à l'avance par Nintendo pour nous annoncer le grand changement de toute leur gamme de consoles? console par cette nouvelle gamme, Guillaume.
Oui, mais c'est ce qu'ils voulaient faire. Hein. Ils voulaient en fait, simplifier leur mode de leur processus de développement en n'ayant plus qu'une seule plateforme. Et c'est exactement ce qu'ils ont. Ils ont une portable qui est la Switch Lite, et ils ont une console de salon qui est la Switch tout court. Et sauf que c'est exactement les mêmes jeux. Alors, on peut aussi se demander, tu vois, il y a des jeux par exemple sur Switch qui sont un petit peu dégradés, voire même carrément dégradés, en mode portable par rapport au mode docké. Donc là, je suppose que ils n'auront que le mode dégradé, hein, tout simplement, puisque je ne vois pas la Switch. Ou alors, bon, peut-être que je me trompe, peut-être que la Switch Lite est légèrement différente au niveau des composants, mais ça m'étonnerait pas mal. Je sais pas. Peut-être que peut-être que les composants sont un petit peu plus optimisés ou peut-être qu'ils consomment un petit peu moins. Bon, faudra voir. Mais je sais pas si par exemple sur Xenoblade 2, est-ce qu'on va avoir la version portable qui était notablement moins bonne par exemple que la version dockée. C'est un peu la seule inquiétude. Sinon, moi je trouve que c'est une machine qui est super et qui me tombe bien.
Eh ben super, merci beaucoup Guillaume pour tes petits retours. Et puis ouais, j'avoue que c'est la console qui fait sourire. Il y a des petites remarques sur le prix, hein, qui disent $200, ça reste hyper cher. On trouve maintenant la Switch à moins de 300 avec des jeux, ce qui est assez vrai. Maintenant, gardons en tête le fait que c'est des prix de lancement et inévitablement elle tombera sous les 200€. Je pense assez rapidement, il y aura des promos pour Noël, il faut s'y attendre, assez intéressante pour la Switch Lite. Bon, bien joué Nintendo. On enchaîne avec une première rubrique de toute une collection de news qui sont un peu à l'image de c'est ce qu'on se disait avec Guillaume avant l'enregistrement de l'émission, qui sont un petit peu à l'image de ce qu'a été Tech Café pendant au moins cette dernière année, mais depuis un bon paquet d'épisodes maintenant, en train de mettre en lumière ce qui se passe en Chine. Pardon, ce qui se passe en Chine, alors à la fois sous l'angle des affrontements juridico-gouvernementaux avec les États-Unis et avec l'Occident en général, mais aussi avec les innovations qu'il peut y avoir au niveau de la tech chez eux. On apprend d'ailleurs à les voir avec un autre regard. Alors il y a une news qui avait défrayé la chronique l'an dernier, je me rappelle que ça m'avait tenu à cœur presque qu'on en parle en premier, Guillaume.
Ça avait été une breaking news.
Et ça avait été déjà la breaking news, tiens, tu vois, comme quoi on était déjà précurseur du nouveau format. Mais c'était les bébés qui étaient génétiquement modifiés avec l'outil CRISPR-Cas9, qui sont donc des bébés qui ont été modifiés génétiquement à l'époque pour mieux résister au virus de sida auquel ils étaient exposés par rapport à leur mère. Ce qui avait évidemment fait énormément de scandales. Réécoutez l'épisode si vous voulez notre analyse d'époque. Et là, on reparle de ce scandale, Guillaume.
Oui, c'était en novembre dernier, hein, c'est le numéro 109 de Tech Café. Donc c'était deux jumelles à avoir eu leur génome édité par CRISPR contre le sida. Donc le toubib à l'origine de ça, c'était un chinois, hein, c'était He Yankui, qui a paru extrêmement surpris, d'ailleurs que le monde entier ne le félicite pas de ce qu'il a fait. Et bon, de leur côté, il faut avouer que les organisateurs du Human Genome Editing Summit, où il a annoncé la nouvelle comme ça, tranquillement, ont aussi été complètement estomaqués de la légèreté du gars, hein, qui avait annoncé que deux femmes, en fait, étaient porteuses de bébés édités. Donc il y avait la mère de Lulu et Nana, et puis il y en a une autre, qui devrait être à terme, voire déjà maman, hein, du troisième bébé édité au monde. Et bon, voilà, alors depuis, on n'entend plus parler du Dr. He, qui a disparu depuis janvier, mais le sujet n'est pas mort, d'ailleurs, on peut faire un petit retour, hein, bien au contraire, parce que depuis, les scientifiques ont estimé que l'espérance de vie des jumelles pourrait être plus courte que la moyenne, hein, leur chance de mourir prématurément entre 41 et 78 ans serait de 21% plus haute, d'après une étude statistique, parce que, voilà, il y a des variations du gène CCR5 qui sont aussi associées à divers risques associés à la grippe et d'autres trucs, donc voilà, bref, c'est pas franchement un cadeau, hein, fait à faire à ces trois gamins, mais bon... Ça n'empêche pas le russe Denis Rybrikov d'envisager de faire exactement la même chose. Il cherche tout de même à obtenir l'autorisation officielle, hein, cette fois, histoire de ne pas être désavoué par son gouvernement, comme le chinois l'a été. Donc malgré la controverse scientifique qui appelle évidemment un moratoire global sur le sujet, l'intérêt pour la technique est énorme. Il y a plusieurs cliniques de fertilité qui ont contacté He Jiankui à la suite de l'annonce. Et même mieux, il y a 5 couples russes qui demandent à Rybrikov d'éditer leur bébé pour leur épargner la surdité dont ils souffrent eux-mêmes. Donc voilà, c'est globalement le génie est sorti de la bouteille, apparemment il n'a pas envie d'y retourner.
Ouais, ça continue à mon avis à être un sujet qui va prendre de l'ampleur. Et puis le point que tu soulèves, qui est de dire qu'en modifiant un gène qui permet de résister au virus du sida, eh ben on s'expose à d'autres fragilités. C'est bien tout le problème que pose la modification génétique du corps humain, c'est qu'il y a effectivement des interventions. On voit ce que ça produit, mais on ne sait pas ce que ça occasionne de l'autre côté. On continue à parler de sujets qui émanent de la Chine. Et évidemment, bon, il y a un sujet qui est quand même assez tendance quand on pense tech et Chine, c'est l'affaire Huawei. Les derniers événements sont parfois cocasses, hein, il faut le reconnaître, je trouve, vu de loin. Le dernier en date, enfin un des derniers en date en tout cas, c'est donc que Huawei avait déposé une plainte il y a de ça quelques semaines par rapport à son exclusion des échanges de marché avec les autres entreprises américaines dans le domaine de la tech, dans les deux sens hein, d'ailleurs, dans le sens je m'importe chez Huawei des technologies et Huawei se sert des technologies américaines. Du coup, l'administration américaine a tout simplement soumis une motion mercredi dernier qui coupe un peu court à cette démarche juridique, Guillaume.
Bah oui, c'est le follow-up, hein, parce que j'avais dit dans un précédent épisode qu'une des premières choses que Huawei envisageait de faire après sa mise au ban des sociétés chinoises par Donald Trump, c'était de porter plainte, tout simplement, pour discrimination, parce que pour lui, c'était inconstitutionnel. Et en fait, ça aurait eu des chances d'aboutir, enfin, manifestement, hein, puisque la Maison-Blanche vient de faire passer le 3 juillet dernier une motion pour forcer la Cour de justice texane du district Est, pour être précis, a ignoré la plainte que Huawei lui avait déposée. Donc la motion doit être encore validée, hein, cela dit. Donc voilà, c'est évidemment, des fois que ça aurait été légal, on va les empêcher de nous poursuivre en justice. Bon, donc même s'il y a une détente, tout est encore loin d'être revenu à la normale pour Huawei. Bon, heureusement, en Europe, ça va pas si mal. Les relations entre l'Angleterre et la Maison-Blanche sont un petit peu tendu hein, la semaine dernière suite aux fuites de l'ambassadeur anglais qui a raconté, je pense que t'as vu, hein, tout le bien qu'il pense de Trump, et la réplique d'ailleurs de ce dernier à Theresa May, la pauvre, décidément, quel job à la con. Bref, là, on apprend qu'en fait, malgré les exhortations des Américains, Huawei aide les 4 fournisseurs Internet anglais à développer la 5G. Et sur les 7 plus grandes villes du pays, Vodafone a lancé la 5G, 6 ont des infrastructures, en partie Huawei. Et bon, en fait, ils aident aussi sur des centaines de sites, O2, 3, etc. Enfin bon, c'est vraiment... Donc, voilà.
Bah, ils sont incontournables.
Ben voilà, on a appris aussi que c'était que Monaco avait 100% de son territoire couvert par la 5G grâce à Huawei.
Bon, c'est un peu facile.
Effectivement, c'est pas très très dur, mais bon, quand même. Et voilà, bon, pour les Anglais, ça concerne des parties non centrales du réseau. Apparemment, c'est des émetteurs, récepteurs radio, quoi. Mais bon, c'est quand même étonnant, hein, puisque le gouvernement n'a toujours pas statué sur le sujet. Alors, est-ce qu'ils vont décider de bannir Huawei maintenant et d'embarrasser la totalité de leurs opérateurs ? C'est pas très très clair.
Non, c'est pas très clair. Et en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est la com. Je l'avais dit hein, déjà, je trouvais que la com de la part de Huawei était déjà plutôt bonne compte tenu de ce qui leur arrivait, et puis de se retrouver embarqué dans un imbroglio pareil, qu'on va pas résumer. Écoutez les précédents épisodes si jamais vous avez pas suivi l'affaire, mais c'est compliqué sans doute de réagir sur le plan de la communication. Et le fondateur de Huawei a pris la parole récemment, Il a pris la parole sur l'accès aux données qu'il peut y avoir sur les smartphones qui pourraient être requis par le gouvernement chinois en disant que finalement il tient la même position qu'Apple, grosso modo c'est un peu le Tim Cook chinois, dans le sens où si jamais on lui demande d'accéder aux données, il refuserait. En gros, il explique même les conséquences que ça occasionnerait si jamais il devait accepter de dévoiler ce type de données. Et il conclut, je préférerais même mourir, quoi. Il souligne évidemment qu'il n'y a pas de backdoor. Guillaume, est-ce que tu trouves comme moi que la com de Huawei, finalement, elle est plutôt pas mal compte tenu de tout ce qui leur arrive depuis le début ?
Oui, enfin là, ça prend un tour drama queen quand même un petit peu, hein.
Avec, c'est un peu exagéré.
Plutôt mourir. Oui.
Après, je me méfie toujours des traductions de ces langues qui sont tellement éloignées de nos langues à nous et de nos fonctionnements à nous, parce que on a tendance, enfin déjà que des traductions de langues latines ou anglo-saxonnes, déjà on s'y perd un peu, mais il faut avouer que la façon dont sont construites les langues en Asie, c'est encore différent. Donc bon, je me méfie un peu de ces traductions là, va vite. Mais.
Ouais, bon, enfin de toute façon, leur argument c'est toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'à la seconde, oui, donne des informations. Au gouvernement, ils perdent la confiance et la crédibilité vis-à-vis de leurs clients, et que du coup ça serait catastrophique évidemment pour l'entreprise. Ce qui est un argument tout à fait sensé d'ailleurs. Hein. Cela dit, faut pas se leurrer, hein, je veux dire, aux États-Unis, si le gouvernement veut quelque chose de Google, à mon avis, il peut l'obtenir, si c'est techniquement possible, je pense que ce sera exactement pareil, voire bien pire chez Huawei.
Et on le saura peut-être pas tout de suite.
Effectivement, voilà, faut pas non plus se faire d'illusions, je pense, là-dessus.
Évidemment.
Effectivement, ce serait mauvais pour les affaires que ça se sache.
Et tu fais un parallèle hyper intéressant justement entre la Chine et les États-Unis là aussi, puisqu'il y a des news qui ont mis en lumière le fait que, tu ne devineras jamais, mais des employés Huawei, dans leur CV, ont indiqué qu'ils avaient préalablement également travaillé avec l'armée chinoise. Est-ce que ce serait pas de nature finalement à tous nous interpeller le fait qu'il y a des employés de Huawei qui auraient été préalablement travaillé avec l'armée et... Justement, je te parlais de parallèle avec les États-Unis. Comment ça se passe aux États-Unis ?
Écoute, aux États-Unis, moi je suis persuadé que chez Walmart, il y a énormément de gens qui ont déjà travaillé pour l'armée, tu vois, par exemple. Non, mais soyons sérieux, effectivement, hein, il y a une sorte de think tank qui s'appelle Henry Jackson Society qui a trouvé que 100 employés de Huawei affirment sur leur CV avoir travaillé pour l'armée chinoise. Je vois pas trop le problème. En fait, les informations sont pas du tout secrètes, elles sont disponibles sur LinkedIn pour tout le monde. Donc oui, ils ont été fonctionnaires, ils ont potentiellement travaillé pour l'armée chinoise, exactement comme dans tous les pays. Enfin, je veux dire, tu peux très bien travailler pour l'armée et puis après travailler ailleurs. Et donc évidemment, je pense que c'est à ça que tu fais allusion. Il est aussi bon de rappeler que Google et Microsoft travaillent ou ont travaillé directement pour l'armée américaine avec de très gros contrats à l'appui. Le dernier en date étant Microsoft, qui a eu, enfin avec le projet des HoloLens pour le champ de bataille, qui fait plusieurs centaines de millions de dollars. Et on a beaucoup parlé du projet Maven de Google, qui avait d'ailleurs soulevé un tollé au sein de l'entreprise, mais qui avait aussi été un gros contrat avec l'armée. Donc je vois pas très bien en quoi ça devrait plus nous faire nous méfier de Huawei que de Google, Microsoft ou quelque d'autre, quoi.
Ouais, le point de détail quand même quand on regarde l'analogie, c'est quand même, je suis d'accord avec toi, moi en fait je vois pas au fond quel est trop le problème, et puis encore une fois on pourrait très bien ne pas le savoir qu'ils travaillent encore avec l'armée, même qu'ils sont infiltrés chez... Enfin, on peut imaginer plein de choses, et c'est pas une news en soi, c'est plus quelque chose qui a été mis en lumière, un peu bizarre, mais là où je trouve qu'il y a quand même une différence dans l'analogie, c'est que on peut considérer que ce soit différent d'imaginer que des mecs soient placés par l'armée chinoise dans des entreprises chinoises versus avoir des contrats, tu vois. Bon, enfin, oui, je sais, c'est pas très très différent en termes de nature de travail, mais il y a quelque chose qui sous-entend plus la mauvaise intention d'un côté,
oui,
que de l'autre.
Mais alors, je vois très très bien ce que tu veux dire. Mais si moi j'étais l'armée et que je vais y placer des pions chez Huawei, je le mettrais pas sur LinkedIn.
Ah oui, c'est vrai, oui. Je leur dirais, évitez de le dire tout haut, c'est un peu dommage, effectivement. Effectivement. Bon, allez, on continue à étudier ce qui se passe en rayonnement autour de cet embargo de Huawei, parce qu'il y a des dommages collatéraux, alors moi que j'avais pas forcément vu venir, et qui pourtant, quand les analyses sont hyper évidents, par rapport... justement, Guillaume, lesquels sont-ils, ces dommages collatéraux ?
Écoute, on pensait que Samsung allait beaucoup profiter de la déconfiture de Huawei, forcément, sauf que, voilà, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est que tout le monde est un peu client de tout le monde, et que du coup, comme Samsung vend énormément de mémoire à Huawei et que lui il en a beaucoup beaucoup moins racheté, et ça fait baisser énormément son chiffre d'affaires et ça fait baisser aussi ses profits. Alors en ce qui concerne les chiffres d'affaires, c'est une perte de 4%, et en ce qui concerne les profits, ce serait quand même 56% de moins, c'est quand même assez important. Ça aurait pu être encore bien pire si Apple n'avait pas in extremis sauvé le bilan de 2019 de Samsung, parce que apparemment ils ont commandé donc une grosse quantité d'écrans, et bon, suite à des ventes un peu décevantes, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas honoré les commandes, toutes les commandes qu'ils auraient pu, ce qui fait qu'ils ont quand même réglé 684 millions de dollars. Un versement de dédommagement, on va dire, pour les commandes d'écran OLED qui n'ont pas été honorées, parce que c'était inférieur à celle initialement promise. Du coup, ça met un petit peu de beurre dans les épinards, mais il faut dire qu'entre, oui, le Galaxy Fold prend du retard, les clients n'achètent plus, c'est pas terrible pour Samsung, comme quoi hein, la mondialisation, c'est compliqué.
C'est d'ailleurs le point que je trouve là aussi hyper intéressant à lire entre les lignes de cette info, c'est que quand j'ai vu le montant exorbitant que tu viens de citer, qui me paraît exorbitant, je découvre le sujet peut-être, il y en a peut-être beaucoup qui connaissaient ce type de montant pour ces dédommagements-là, mais moi je trouve ça hyper important, et je me dis, avec du recul, pour que tu en arrives à payer ce montant-là en dédommagement plus tôt que de t'en servir pour commander des écrans OLED, alors qu'on nous parle de smartphones qui arriveraient dans les années à venir, qui seraient dans la gamme de chez Apple intégralement tous en OLED, comment tu peux te gourer à ce point en termes d'anticipation de vente?
Excès de confiance.
Je comprends pas, mais c'est incroyable. Enfin, à ce stade-là, c'est un melon stratosphérique. C'est même plus un excès de confiance, quoi. J'ai du mal à comprendre.
Non, mais écoute, aussi, si, mais tu sais, hein, ils tablent sur des ventes, sur telle vente par rapport aux années précédentes. Ils pensent que ça va se vendre de telle manière, etc. Après, réutiliser les écrans pour d'autres modèles de téléphone. En fait, les écrans sont différents à chaque fois, par la taille, par le notch qu'ils peuvent avoir, par même la connectique. Hein. Donc, réutiliser un écran, c'est pas évident. Si tu voulais réutiliser des écrans, il faudrait changer le design, je pense, de tes prochains téléphones, qui seraient probablement différents. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. C'est beaucoup plus cher. Ils ont des écrans sur les bras, et après, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils revoient complètement leur prochain téléphone pour pouvoir les réutiliser. Enfin, bon, c'est le bordel, quoi.
D'accord, ok, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas si simple. Bon, de toute façon, s'ils le font, c'est qu'ils ont bien arbitré dans le fait que ça leur était plus intéressant. Mais c'est vrai que le chiffre est impressionnant, quand même. Ça fait un peu, tu sais, caprice de riche, un peu. Oh, je m'en fous, je veux pas. Ouais, ça me coûte cher.
Tu sais, c'est un peu, là, 600 millions, bon.
c'est vrai, t'as raison. Pourquoi ils baissent pas le prix des iPhones? Alors, on continue avec les effets autour du rayonnement de la Chine dans la tech, avec cette info des États-Unis où un monsieur s'est vu infliger une peine de 219 ans de prison pour avoir fait quoi, Guillaume ?
Bah, et pour s'être fait prendre aussi, hein, je veux dire. Bon, c'est un professeur en ingénierie électrique de l'Université de Californie à Los Angeles qui s'est fait choper à transmettre des schémas de puce en Chine. Voilà, donc c'est Yi Chi-Chi. Il a un complice aussi qui s'appelait Kiet Han. Il se faisait passer pour des clients américains lambda, hein, en payant via une banque américaine. Mais cette banque américaine, en fait, elle déposait... Il y a une compagnie basée en Chine qui déposait des fonds. Et donc, il achetait des designs de puces à des grosses compagnies américaines qui n'ont pas été nommées. Pour ne pas les mettre dans l'embarras, et qu'il les transmettait ensuite à la compagnie chinoise, dont il était d'ailleurs par ailleurs président, le monsieur professeur. Donc, non seulement bah, c'est déjà illégal, mais en plus, les puces sont des applications militaires, donc ça peut se retrouver dans des missiles, dans des systèmes de navigation. Résultat, ouais, 219 ans de prison, c'est sûr qu'avec l'ambiance brûlante de guerre froide qui est en ce moment, c'est pas une bonne idée de faire de l'espionnage industriel.
un petit problème de timing, peut-être. Ou la tête un peu trop brûlée. Alors, toujours en Chine, il y a une news qui est arrivée. Alors, c'est pas... Bon, je voudrais la présenter en expliquant que ça pourrait paraître de la rumeur, etc. Mais vu la manière dont c'est présenté, je pense pas que ça puisse être de la rumeur. C'est une news qui émane du Guardian, hein, et qui fait suite à un travail d'enquête qui aurait été mené, alors ils disent, avec des partenaires à l'international, donc je sais pas quels sont les autres partenaires du Guardian qui ont travaillé sur le sujet. Mais en tout cas, voilà ce qu'il révèle. Il semblerait que en Chine, lorsque vous rentrez dans la région du Xinjiang, qui est la région à l'ouest de la Chine, en arrivant depuis le Kyrgyzstan, il y a une frontière que vous franchissez, et lorsque vous franchissez cette frontière, vous pouvez être amené, je vais le dire de cette manière-là, parce qu'on ne sait pas si c'est systématisé ou pas, mais à voir votre smartphone installer une application espion qui récupère des infos, qui récupère des mails, des SMS, des contacts, plein d'informations sur l'appareil lui-même. C'est en gros des traces de cette application qui aurait été installée notamment sur Android et qui n'aurait pas été désinstallée par la suite, qui aurait d'ailleurs témoigné de ce constat. J'ai beaucoup de difficultés, en fait, à savoir comment est-ce qu'ils peuvent aussi facilement, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas la proportion, encore une fois, mais installer cette application sur les smartphones qui passent par la frontière. En tout cas, ça fait froid dans le dos, et en même temps, c'est une méthode un peu à l'ancienne, tu vois. Encore une fois, je ne sais pas comment ils installent cette application, mais le fait de forcer l'installation d'une application sur un smartphone, ça fait un peu méthode à l'ancienne. Et puis, j'arrive à me demander comment est-ce qu'ils peuvent faire ça sans imaginer que ça puisse se voir. Là aussi, il y a un peu le complexe du bon, « de toute façon, qu'est-ce que vous allez me dire ?» Hein, de toute façon, c'est installé, je fais ce que je veux, qu'est-ce que vous allez me dire, Guillaume?
Bah,
qu'est-ce que tu en penses?
C'est exactement ça. Alors, le Guardian, il a travaillé avec le New York Times, avec Motherboard, et avec deux trucs allemands que je n'arrive pas à prononcer, Süddeutsche Zeitung et NDR, qui est apparemment une radio allemande aussi. Bon, mais je ne peux pas vous en dire plus. Toujours est-il qu'effectivement, ça repasse par le Kyrgyzstan, comme tu dis. En gros, c'est effectivement une application qui est installée, qui cherche, donc ça scanne le contenu du téléphone, et ça cherche des contenus compromettants. Donc il y a des experts du Guardian qui ont essayé justement de trouver ce qu'elle cherche, et ça, apparemment c'est un énorme éventail de contenus qui est relié à la mouvance islamique. Donc il y a des magazines d'Al-Qaïda, par exemple, bon ok, les modes d'emploi d'armes à feu, c'est vrai que ça fait bizarre, mais aussi des contenus
toujours
quand
louche.
Même plus bénins, hein, comme des infos sur le ramadan, bon, des textes du Dalai Lama, parce que bon, le Tibet est frontalier du Xinjiang, hein, c'est cette zone-là, ou même de la musique. Ouais, c'est pas français, c'est ça, c'est une région qui est pas franchement appréciée du pouvoir central. Et voilà, il y a même de la musique aux paroles subversives, mais carrément parfois des trucs, des allusions dans de la J-pop, enfin vraiment des trucs très très larges. Il y a même quelques ouvrages occidentaux de stratégie militaire qui sont considérés comme, je sais pas, subversifs ou inquiétants. Et donc, bah, à la frontière, en fait, t'es obligé de déverrouiller ton téléphone. Qui est amené dans une autre pièce et qui t'est rendu plus tard, parfois des heures plus tard.
J'avais pas relevé ça.
Et oui, et l'appli est normalement désinstallée. Mais apparemment, bah, parfois, bah, c'est inévitable, hein, des fois ils oublient, elle reste, d'où l'article de presse qui vient de sortir. Alors personne ne sait où les informations extraites sont envoyées, évidemment combien elles sont sauvegardées, bon, c'est certainement
est-ce que c'est le cas
pas
tout
très RGPD compatible. C'est peut-être... pas l'impression. C'est, voilà, donc l'appli n'installe pas de tracker, hein. A priori, il n'y a pas de mouchard résident dans le téléphone. Bon, il faut savoir que 100 millions de personnes par an traversent la frontière dans cette région. C'est une région qui abrite des minorités musulmanes, hein, qui sont déjà très surveillées. Donc là, même toi, hein, si tu y vas, si tu fais du tourisme, bah, tu seras susceptible d'être scanné aussi. Je sais pas si c'est systématique, mais ils avaient l'air de dire que c'était systématique. Donc, en tout cas, sur les appareils Android, je sais pas ce qu'il y a des appareils sur iOS. Peut-être qu'il y a un truc différent, mais bon.
Ouais, je crois que dans l'article, ils précisaient qu'ils n'avaient pas retrouvé de traces comme c'est le cas sur Android. Mais bon, à partir du moment où c'est déverrouillé, ce qui m'interpelle quand même, c'est que. Sur les smartphones, quels qu'ils soient, Android ou iOS, quand tu installes une application, si ton smartphone est déverrouillé et qu'elle est gratuite, tu n'as pas à rentrer de code, hein, je crois.
Pas du tout. Sur Android, il suffit d'autoriser une fois que le téléphone est ouvert, tu autorises les sources inconnues et tu peux installer n'importe quoi. Évidemment, si c'est déverrouillé, tu donnes toutes les autorisations qu'il faut et puis voilà, ça a accès à tout.
Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que je me serais imaginé que c'était peut-être plus simple une fois que le smartphone était déverrouillé, qu'il y ait, tu vois, une grosse machine, un gros ordinateur qui soit dans la pièce sombre des gardes et qui branche, boum, juste un câble USB et que ça aspire tout, puis qu'il soit analysé après coup, tu vois.
Mais c'est peut-être ce qui se passe.
Je trouve que la démarche.
C'est-à-dire peut-être que l'appli envoie.
Peut-être en faisant
peut-être que l'appli envoie un serveur des trucs qui sont analysés, et puis ensuite, comme de toute façon, il récupère aussi toutes les informations sur ton téléphone pour pouvoir le retrouver après.
Je dis juste que dans la démarche de récupérer des infos d'un téléphone, je me serais imaginé que, en termes de manipulation, ça aurait été plus simple de venir brancher le smartphone, venir avec le smartphone, le brancher, attendre, le débrancher, le rendre. Là, ça sous-entend qu'il faut le prendre, aller installer l'application, je sais pas comment, la laisser tourner, la désinstaller. Tu vois, je sais pas, ça me semblait... Bon, c'est...
Non.
C'est bébête, hein.
Non, mais peut-être qu'il y a des meilleures manières de le faire, ça c'est vrai. Après, comme tu le dis...
Je vais peut-être le réécrire.
Oui, exactement. On va étudier pour améliorer un petit peu le processus, là, parce que c'est pas assez rapide.
Le nombre de personnes qui nous écoutent et qui disent « Mais quel blaireau, celui-là » Bon, je suis d'accord avec vous, je suis un peu blaireau sur cette histoire. Allez, un petit mot aussi sur les méthodes détournées qui aident un petit peu les manifestants hongkongais. Deux méthodes de soutien pour les manifestants. Le premier, c'est AirDrop, qui est cette fonctionnalité d'échange sur iOS qui permet d'envoyer à toute personne à proximité, ça s'appuie sur le Bluetooth, sur le Wi-Fi, à toute personne à proximité, des informations. Si tant est qu'on a accepté de recevoir des informations sur AirDrop de la part de tout le monde, on peut le régler sur uniquement les contacts, mais il y en a beaucoup qui le règlent sur tout le monde. Et puis, on peut s'envoyer des photos, des liens, des vidéos, ce qu'on veut. Et ça a l'air d'être... particulièrement utilisé dans le cadre des manifestations parce que, évidemment, c'est beaucoup moins soumis à censure parce qu'on ne passe pas par le réseau cellulaire classique. Ça vous rappellera toutes les fois où vous déverrouillez votre smartphone dans le train et vous avez la possibilité d'envoyer par AirDrop des photos que vous voulez à Janine qui a aussi un iPhone dans le même wagon. C'est assez cocasse. Et une autre méthode, Guillaume, qui a l'air d'aider les manifestants.
Oui, alors moi, je trouve ça très intéressant parce que déjà, le AirDrop, effectivement, c'est du pair à pair, donc on ne passe pas par une infrastructure et donc du coup c'est pas traçable et c'est c'est quand même très intéressant. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que les Hongkongais sont parfaitement conscients du fait que utiliser des moyens de paiement électroniques Eh ben, c'est dangereux quand tu es dans ce contexte-là. Parce que ils utilisent une carte qui s'appelle la carte Octopus, normalement, qui est une carte extrêmement courante pour payer ses transports, mais aussi des petits achats, c'est une carte sans contact. Ça va très très vite, c'est très très pratique. Sauf que, bien entendu, les manifestants contre la loi, donc c'est toujours cette loi d'extradition qui est maintenant officiellement morte, d'ailleurs, il me semble, que le gouvernement congolais voulait faire passer. Effectivement, quand t'es manifestant, quand t'es dissident en Chine, tu n'utilises pas ta carte Octopus, tu prends tes pièces et tes billets, et tu vas à l'automate, tu fais la queue, et comme ça, tu es sûr que tes allées et venues ne peuvent pas être tracées, et c'est vital. Enfin, je veux dire, c'est une question de potentiellement de vie ou de mort, en tout cas, de prison ou de pas prison, tu vois, donc, dans ce genre de contexte. Et je pense que ça illustre très bien pourquoi le cash, c'est important. Voilà. Pourquoi une société où il n'y a que de la monnaie électronique, c'est une société de surveillance, et pourquoi l'État, ou en tout cas ceux qui sont aux commandes, ne sont pas forcément super bien intentionnés, ça peut poser des soucis. Voilà. Donc je pense que c'est une belle illustration de voilà pourquoi, à mon sens, le cash, il ne faut pas le laisser mourir, parce que c'est important, c'est un outil qui permet de défendre la vie privée et donc la liberté d'expression. C'est un outil de liberté aussi, le cash. Et rien, à mon avis, pour le moment, même pas les crypto-monnaies, en tout cas, aucune crypto-monnaie actuelle ne permet d'avoir le niveau de facilité, de simplicité et de vie privée qui est équivalent au cash.
Oui, c'est indéniable, hein, je pense que. Et de toute façon, ça serait de toute manière suspect de vouloir à tout prix faire la guerre au cash. Je pense que si c'est
c'est pas que c'est suspect, c'est que c'est ouvertement. C'est-à-dire, il y a des firmes comme Visa qui le font ouvertement, qui ont des objectifs, des projets qui s'appellent No Cash 2000, je sais pas quoi. 2030 ou je sais plus, enfin il y a un truc comme ça, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais il y a des groupes de travail qui ouvertement militent pour la disparition totale du cash dans les 10 années qui viennent.
Oui, alors il y a plusieurs choses sur le plan, et c'est pour ça qu'on pourrait en revenir à Libra, mais il faut pas trop qu'on fasse de pont entre les sujets parce que ça risque d'être compliqué. Je fais aussi une différence. Bah, jusque là, ça tiendra plus très longtemps, hein, ma différence et la frontière que je mets, mais entre une entreprise privée comme Visa qui vend des cartes bancaires et qui évidemment a tout intérêt à vendre des cartes bancaires plutôt qu'à laisser circuler du cash à la place, ça je peux le comprendre. Moi, et à la limite, je comprends tout à fait ta position vis-à-vis du cash et je ne peux que être d'accord avec toi. Vraiment, ce que je mettais en lumière, ce serait plus d'un point de vue État. Ça me gênerait énormément qu'un État effectivement ne fasse pas tout pour conserver du cash et ce serait extrêmement louche effectivement qu'il ne fasse pas tout pour conserver du cash, et c'est pour ça que ça me pose dans le fond un problème Libra, mais dans mon petit cerveau peut-être que je vais arriver à digérer le sujet d'une manière ou d'une autre et à mieux le comprendre, mais c'est que ça bouleverse un petit peu ces positions qu'il y avait avant entre les États qui restaient des garde-fous quelque part pour les habitants vis-à-vis des entreprises privées. Et on sent que ça risque d'être de moins en moins le cas. Bon, non, on en reparlera, on sort un petit peu de notre sujet. Et de toute façon, il faut le conclure. Juste un dernier sujet, une petite anecdote pour Airdrop, Guillaume. Je me suis retrouvé un jour dans une pièce au deuxième sous-sol d'un immeuble où vraiment on captait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un réseau Wi-Fi, il n'y avait pas une barre de Edge. On ne pouvait même pas appeler, rien, rien, rien. Et j'aurais aimé pouvoir échanger avec des personnes qui sont avec leur smartphone dans la pièce, en face de moi, quoi, pour pouvoir échanger des informations, pour s'organiser, tu vois, que ce soit pour le déjeuner ou pour autre chose. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage que les smartphones n'intègrent pas aujourd'hui nativement des protocoles, alors à l'AirDrop ou autre, hein, qui soient plus ouverts, évidemment, mais qui permettraient de converser localement sur des échanges d'informations sans passer par les réseaux cellulaires. D'une part, ce serait hyper intéressant d'un point de vue confidentialité des données, parce que ça circulerait pas parmi tous les circuits habituels. Je me demande s'il y aurait pas un peu de vertu écologique, parce que je pense qu'il y a aussi vachement, c'est peut-être beaucoup de dire, mais il y a quelques ressources qui sont consommées par le fait de faire circuler des infos. Et combien on est à s'envoyer des mails aux voisins, aux collègues d'en face, ou envoyer des SMS à la personne qui a un étage au-dessus. Et je me disais que ce serait vachement intéressant. Je ne sais pas si tu as eu connaissance de développement de protocoles de ce type-là.
Alors, on avait parlé, donc, je crois que c'était avec Pod, il y a deux épisodes de ça, d'un protocole mesh qui était adopté par Oppo. avec ses téléphones qui permettaient de téléphoner justement en mode talkie-walkie, voire en mode talkie-walkie gris, c'est-à-dire relayé par d'autres téléphones OPPO qui feraient partie du réseau. Donc c'est des protocoles, techniquement c'est possible, ça existe, sauf que c'est jamais implémenté, quoi, et que d'ailleurs, enfin, moi je m'en étonnais un petit peu, j'étais ravi de voir qu'OPPO l'implémente, même si je n'ai pas trop d'espoir de voir ça, disons, largement répondu avant longtemps, quoi, voire jamais.
Ah, c'est un Google qui devrait proposer ça dans une version d'Android, ça ferait avancer les choses, peut-être pas immédiatement, mais ça ferait avancer les choses. Bon, on va enchaîner avec le deuxième sujet qui va vous allez voir tourner beaucoup autour de l'argent. Mais avant d'enchaîner sur cette deuxième rubrique, je vais quand même vous rappeler les incontournables que je rappelle d'habitude dans les précédents épisodes au tout début de l'émission, parce que vous avez plusieurs moyens de converser et d'entrer en contact avec nous. C'est d'une part dans les commentaires sur le site techcafé.fr, mais il y a aussi et surtout le groupe Telegram de Tech Café où on a deux choses, c'est des conversations rigolotes et intéressantes, mais aussi une veille qui se fait de manière coopérative, c'est-à-dire que tout le monde envoie un petit peu ses news quand il les voit passer, parce qu'il trouve que c'est marquant, et moi perso, ça commence de plus en plus à être une source de veille tech de mon côté, donc merci beaucoup à vous qui êtes dans le groupe Telegram de Tech Café de diffuser des articles quand ils sortent, parce que vous êtes super réactifs, et ça permet de voir les trucs hyper importants qu'il faudrait pas rater, donc merci beaucoup. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast. Vous avez plusieurs moyens à votre disposition. Le premier moyen, le plus évident, c'est que vous passiez un petit peu de temps, là vous avez quelques minutes devant vous, c'est l'été, à parler de podcast à des personnes à qui ça pourrait parler et intéresser, les sujets tech. Vous allez les voir, vous leur dites qu'il existe Tech Café, que vous pouvez même leur montrer les applications de lecteurs de podcast et leur expliquer comment les écouter, s'abonner et suivre les émissions les unes après les autres. Donc ça, c'est déjà un premier soutien qui est plutôt pas mal. Le deuxième soutien, c'est que les catalogues de podcasts vous permettent souvent d'évaluer les émissions. Ça nous fait très plaisir quand on voit vos évaluations. Moi, je les relève et je les rediffuse sur Instagram. Donc, surtout, continuez à le faire. C'est très précieux pour nous. Et puis, évidemment, Tech Café est disponible gratuitement pour tous et le restera. Et toutefois, vous avez aussi la possibilité de passer à la vitesse supérieure en soutenant le podcast financièrement avec des toutes petites sommes pour chaque épisode. En vous rendant sur patreon.com/techcafé, vous trouverez toutes les infos, les modalités. Vous verrez en quelques minutes, ça peut être fait. Merci beaucoup à vous. Pour votre soutien, une nouvelle rubrique, donc on entame Guillaume, qui va parler, tu l'as intitulé « Pognon et opinion », c'est bon ça. Et on reparle à parler d'un sujet qui est à nouveau dans la hype du moment, parce que la courbe est plutôt croissante, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, il a la valeur à la hauteur du nombre de news qu'on a dans les podcasts, j'ai l'impression. Mais quelques petites infos sur la consommation du Bitcoin, Guillaume.
Oui, il y a quelques petits trucs intéressants sur le Bitcoin, au sens large, qui sont apparus. Alors déjà, effectivement, il y a la consommation du Bitcoin. Le Bitcoin, ça consomme monstrueusement, et voilà, c'est un truc contre lequel je m'élève, évidemment. Et ça continue, sauf que là, donc, il y a les nouvelles estimations, donc il y a un outil en ligne qui permet de calculer en temps réel la consommation du réseau Bitcoin, en tout cas de l'estimer, c'est le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, voilà, ou CBECI, et cette estimation, elle se fait actuellement autour de 7 gigawatts, c'est-à-dire autour de, pour un an, 64 terawatt-heure. 64 terawatt-heure, c'est la consommation qui est c'est une consommation qui est équivalente à celle de l'Autriche, qui est proche de celle de la République tchèque, et qui est supérieure à celle de la Suisse. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup. Alors bien entendu, on ne sait pas exactement ça, c'est une estimation moyenne. Le minimum théorique, c'est 23 TWh, et le maximum théorique, c'est 187 TWh, donc on s'est situé un petit peu autour, tu sais que c'est assez...
La fourchette est assez large, mais le bas de la fourchette est assez violent.
Ouais, le bas de la fourchette est assez violent, c'est vraiment très 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 gros, d'autant que le Bitcoin, c'est un réseau qui traite moins de 100 millions de transactions par an, c'est un chiffre qui est ridicule, comparé aux 500 milliards de paiements traités par la fintech traditionnelle, donc bon voilà, pour la quantité d'électricité que ça consomme, c'est assez dégueulasse. Cela dit, il faut aussi mettre en perspective, et alors là par contre c'est moi qui suis tombé le cul de ma chaise, c'est que apparemment ce réseau qui consomme autant, il pourrait être 4 fois alimenté par l'électricité qui est consommée par les appareils en veille aux États-Unis en une année. Et oui, parce qu'il faut quand même 50 centrales, alors j'allais dire centrales nucléaires, mais pas forcément, mais 50 centrales électriques de 500 mégawatts 19 milliards de dollars sont consommés par les machins en veille aux États-Unis. C'est quand même, voilà, je trouve ça absolument hallucinant. Donc oui, ça met des choses en perspective, c'est-à-dire oui, le Bitcoin, ça consomme, je persiste à le dire, ça consomme énormément d'électricité pour ce que ça fait. Mais bon, voilà, je veux dire, il y a peut-être aussi des trucs à faire pour sauvegarder un petit peu d'énergie, si c'est juste de débrancher certains trucs ou d'éteindre certains trucs, c'est quand même pas si compliqué que ça. Alors, bon, plus marrant, il y a un truc que j'ai vu passer aussi, je pouvais pas pu m'empêcher d'en parler, puisque il y a un mec, un fou, qui a essayé de miner du Bitcoin sur un AGC Apollo. Alors un AGC Apollo, c'est quoi? C'est l'ordinateur de bord des missions Apollo, qui dans les années 60, donc, hein. Et alors, c'est Ken Chirif qui fait ça, il maintient de très vieux ordinateurs, il a une grosse collection, et c'est sans doute le seul au monde à avoir un ordinateur de bord Apollo qui est encore en état de marche, et du coup, il s'est mis à la tête de voir combien ça prendrait de temps de miner le Bitcoin avec, alors évidemment pour l'art, hein. Alors, c'est pas facile hein, de programmer un assembleur, une machine qui de 15 bits, alors faut savoir que c'est une machine qui fait 35 kilos, qui a 2 kilos de RAM et 36 kilos de ROM.
Alors, rendement.
Ah oui, c'est donc l'algo, évidemment, donc c'est le SHA 256, il y a deux calculs de SHA 256 pour miner du Bitcoin, hein, chaque ce on appelle un hash en Bitcoin. Or, miner un SHA-256 sur un AGC Apollo, ça prend 5,15 secondes. Donc ça veut dire qu'un hash Bitcoin, ça prendrait 10 secondes à peu près pour faire voilà, deux trucs. Alors, donc 10 secondes par hash, pour te donner une idée, un ASIC sur clé USB, qui est loin d'être la manière la plus rapide de le faire, hein, fait 130 milliards de hash par seconde, contre donc 0,1 H pour l'AGC. Donc miner un bloc demanderait 1 milliard de fois l'âge de l'univers, voilà, qui est d'une rentabilité contestable, mais ça illustre bien la loi de Moore, je trouve.
C'est clair, c'est rigolo. D'autres choses d'ailleurs sur le Bitcoin, Guillaume?
On peut parler Bitcoin, on peut reparler de Gab, hein, puisque c'est le sujet suivant. Pourquoi parler de Bitcoin en ce moment? Pourquoi on a introduit ce truc-là? C'est parce que Gab, qu'on a résumé souvent comme le Twitter facho, Gab a pas eu la vie facile, le pauvre, hein, il s'est fait virer de toutes les plateformes d'hébergement, de toutes les plateformes de paiement, ou presque.
C'est dur, hein.
C'est pas facile. Hein. Mais bon, Gab est un dur à cuire, il veut devenir plus que le Twitter de ceux qui se sont fait virer de Twitter. Il veut devenir l'archétype de la plateforme sociale libertarienne. Donc il a un CEO qui s'appelle Andrew Torba, et il veut faire de Gab le prototype du réseau libre, vraiment libre, loin de la censure tyrannique hein, de Facebook ou Twitter. Et pour ça, ils veulent 10 millions de dollars. Donc ça viendrait d'investisseurs de gros calibre, mais pas en grosse coupure, plutôt en Bitcoin. Et oui, parce que la plateforme de paiement, si les plateformes de paiement te virent, qu'est-ce que tu fais? Tu passes au tout décentralisé, tu passes au Bitcoin pour le paiement, tu passes à Mastodon pour le protocole. Donc voilà, Bitcoin serait, selon eux, la monnaie de la liberté d'expression. Et donc ils vont se baser sur un fork de Mastodon, qui sera l'infrastructure couplée sur un fork de Keybase. Gab sera donc totalement décentralisé avec une multitude de petits serveurs, tous interconnectés. N'importe qui pourra créer son serveur Gab avec les règles donc, qui lui plaisent. Et bon, bien entendu, hein, comme c'est difficile de vendre Gab comme une plateforme où tu peux tranquillement dire de la merde sur les juifs, les noirs, les femmes, les gros, je sais pas quoi.
C'est vrai.
Gab se présente comme une plateforme totalement ouverte à toutes les minorités hein, de par le monde, hein, les conservateurs bien sûr, mais aussi les dissidents chinois, les dissidents égyptiens, les LGBTQ dans toutes les parties du monde où ça craint. Bref, une plateforme, peux-tu le croire, totalement inclusive. Alors, Eugene Rochko, qui est le créateur de Mastodon, n'est pas ultra ravi. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui est complètement furax, c'est Brendan H., le CEO de Brave, donc le navigateur open source, dont le code a aussi été forqué par Gab pour faire Decenter, le navigateur officiel de Gab, hein, qui vire les trucs spécifiques à Brave, qui fait comme le token BAT, hein, qui faisait la spécificité de Brave, et qui le remplace par ses propres fonctions, donc accès au réseau Gab, paiement en Bitcoin et accès à Tor. Et du coup, est-ce que c'est le début d'un écosystème alternatif construit autour du Bitcoin et de d'autres éléments décentralisés? Tu vois qu'à la limite, l'évolution de Gab pourrait devenir intéressante pour ça. Bon, malheureusement, je me fais peu d'illusions sur les contenus qu'il va héberger, genre, je sais pas, 10 minutes après sa mise en ligne.
Tu m'étonnes. C'est pas les endroits les plus reluisants du web qu'on va trouver sur ces espaces-là, de toute façon. Écoute, très bien, on va enchaîner un petit peu avec d'autres news. Juste j'en sors une qui va te permettre de rebondir puisque tu l'as habilement construite de cette manière-là. On peut juste relayer au passage la loi qui est en train d'être discutée en ce moment à l'Assemblée qui C'est un texte de loi qui a pour objectif d'obliger les réseaux sociaux à supprimer des messages déclarés comme haineux en moins de 24 heures. En fait, moi, au départ, ces intentions-là me font sourire parce que je me dis que c'est pas forcément possible. Et en fait, avec du recul, si je pense que c'est possible, et même je pense que ça devrait même être plus que 24 heures, vu les dégâts que ça peut faire, et même 24 heures, c'est assez long finalement dans certaines situations. On a vu des cas dramatiques qui ont duré bien moins de 24 heures et ça avait déjà fait beaucoup de dégâts. Mais bref, c'est une initiative qui me semblait intéressante à suivre. Et parmi les propositions qui sont faites dans le texte loi, il y a l'amende qui serait infligée au réseau social qui porterait sur un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est comme le RGPD, hein. J'ai l'impression que c'est le truc qui maintenant est capable de rendre audible un sujet, un texte de loi, c'est de le faire en pourcentage du chiffre d'affaires d'un réseau social, parce que finalement quand ils sont tout petits, bon, pas très grave. Par contre, quand on dit un pourcentage du chiffre d'affaires d'un Facebook, forcément ça fait plus peur. Et là, ce serait 4% de leur chiffre d'affaires mondial, donc pas seulement évidemment leur chiffre d'affaires en France, mais mondial. Et évidemment, ce serait des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce que tu penses que c'est peine perdue, Guillaume, ou est-ce que tu penses que c'est une intention qui est plutôt louable et qu'il faut soutenir?
Bah, c'est compliqué, c'est un sujet qui est forcément très compliqué pour plein de raisons. Il y a plein d'opposants à cette loi pour diverses raisons, les raisons qui sont la peur de la surcensure par exemple, ou alors le fait que c'est du coup les entreprises privées qui vont décider qui décident de virer le contenu ou pas, en gros, hein, donc c'est eux qui font les censeurs, ce qui leur plaît pas trop. Mais bon, il n'y a pas une opposition si énorme que ça, finalement, à cette loi. Il n'y a pas une levée de bouclier des plateformes. Politiquement, ça n'a pas l'air non plus d'être...
Au contraire, même. Ouais.
Voilà, ça a l'air de... Bon, pourquoi pas, quoi. Et alors, évidemment, j'ai du mal à te répondre, parce qu'il y a quand même eu un précédent en Allemagne. Il y a eu une loi qui s'appelle NetzG, qui... Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, me demande surtout pas ce que ça veut dire. NetzG. c'est une loi qui est totalement équivalente et qui est passée il y a un an ou un an et demi en Allemagne. Et en fait, c'est très difficile à l'heure actuelle, là, tout de suite maintenant, d'en tirer des conclusions pour savoir si elle a été efficace ou pas. Il y a des trucs qui sont à peu près sûrs, c'est que la surcensure n'a pas eu lieu, hein, puisque en réalité, on ne sait même pas réellement. Si les plateformes ont fait leur boulot comme convenu, parce que les mesures finalement sur ce type d'expérience sont très difficiles. Donc par exemple, en 2018, il y a eu presque 1 million de messages postés sur les grandes plateformes qui ont été signalés en Allemagne, hein, et il y a eu 166 000 contenus qui ont été retirés par les plateformes, donc 80% globalement des contenus signalés sont restés en ligne. Mais pourquoi ? Est-ce qu'ils sont restés en ligne parce que les plateformes s'en battent les steaks, ou est-ce que parce que tout simplement, en fait, dans ces contenus, il était en grande partie légal, et les gens qui les ont signalés ne les pensaient pas légal alors qu'en fait ils l'étaient, tu vois ?
Ouais.
Voilà, c'est très compliqué, mais en tout cas, clairement, il n'y a pas eu de surcensure, mais c'est difficile, comme les plateformes, évidemment, elles publient pas tous les chiffres, hein, les chiffres sont difficiles à comparer de l'une à l'autre, et en plus, c'est difficile d'avoir un avant-après, tu vois, on n'a pas les chiffres avant-après, c'est assez compliqué. Moi, ce que j'aurais tendance à dire quand même, c'est que c'est plutôt bien dans l'idée, c'est-à-dire que globalement on accepte dans le logiciel qu'il y ait une version 1, une version 2, qui soit patchée, que voilà, au début, ça bug un peu, et puis au fur et à mesure ça s'affine, et voilà. Donc là, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'on a une loi qui probablement est imparfaite, qui est probablement et pas forcément ultra efficace ou optimale. Cela dit, ça montre que le problème de la haine sur internet, c'est les pris au sérieux, voilà, par l'État lui-même. Il est pris au sérieux par les réseaux sociaux, il avait déjà d'ailleurs commencé par eux-mêmes à le faire, hein, depuis quelques mois. Donc cette prise de conscience et le fait qu'il y ait, que les pouvoirs publics s'en mêlent, c'est quelque chose qui est globalement positif, même si, ok, la loi, il faudra la changer, il faudra la modifier, il faudra patcher, tout ça, pour avoir quelque chose de plus efficace, de mieux à terme. Donc finalement, je pense que même si c'est pas génial, c'est un début, il faut continuer à travailler dessus, quoi.
Je suis assez d'accord sur ce genre de sujet. Il vaut mieux un truc imparfait qui permet de progresser que quelque chose de parfait. Au passage, la loi NetzG, c'est la loi, alors je suis navré, Netzwerkdurchsetzung, au Scrabble, c'est un truc formidable. Et donc, selon Google Traduction, désolé, c'est la réseau loi sur l'application, ce qui ne nous éclaire absolument pas.
Écoute, merci beaucoup.
Sa signification, voilà.
Non, mais je loue ton courage d'avoir tenté de prononcer le truc. On est désolé, vraiment.
On aura fait un effort. Non, il y a Corben qui a pris la parole sur son blog, sur un sujet que tu voulais relayer, sur la censure. C'est toi ou c'est moi, Guillaume, qui l'avons mis,
Je crois que c'est moi, mais bon, tu peux très bien en parler, il n'y a pas de problème.
Je l'ai vu passer, j'en dis quelques mots, mais c'est effectivement une démarche de la part de Google qui censure, alors probablement avec des intentions louables, hein, des vidéos sur YouTube, parce qu'elle parle de hacking. C'est vrai que c'est pas bien, Guillaume, le hacking. Spontanément, on a envie de dire pourquoi est-ce que c'est sur YouTube, ça, enfin.
Mais oui, pourquoi? C'est pas bien. Mais oui, c'est vrai que tu vas pouvoir te faire hacker par ton petit voisin adolescent de 14 ans. Mauvaise graine. Oui, ben non, mais en fait, effectivement, ils bannissent toutes les vidéos de hacking. Effectivement, il y en avait...
Alors, toutes?
Probablement.
J'ai l'impression que c'est pas si... Bon, allez, je te laisse continuer.
Le truc, c'est que, bon, après, déjà, il faut qu'ils les trouvent et qu'ils les reconnaissent comme tels. Après, ouais, ils virent le hacking d'une certaine mesure, que ce soit... pédagogique, avec vertu pédagogique ou pas forcément pédagogique à la base, c'est quand même de la circulation d'informations en matière de sécurité. Il vaut mieux plus d'informations, trop d'informations que pas assez. On a dit plein de fois que le secret, c'était l'ennemi de la sécurité. Je veux dire, c'est si quelqu'un qui a envie de hacker quelque chose, ben, s'il n'y a rien sur YouTube, il va aller ailleurs, parce qu'il y a des sources et il y en a plein, et c'est pas un souci. Par contre, toi, tu ne seras pas au courant, par exemple, qu'il y a cette possibilité de te hacker, que tel serveur, que tel routeur marche pas bien, qu'on peut te hacker de telle manière. Et donc, tu es plus vulnérable, alors que les hackers, eux, de toute façon, ils trouveront toujours un moyen de trouver des informations utiles, et donc, eux, ça, ils s'en foutent complètement. Donc, au net, le bénéfice net est un déficit. Du coup, c'est vraiment, je pense, une mauvaise idée, parce que oui, il faut mieux plus d'informations que pas assez en matière d'infosec.
Ouais, a priori, donc, enfin, bon, il y a d'autres articles qui sont retombés sur le sujet, hein, donc il faudrait recreuser un petit peu à tête reposée. Mais a priori, c'est pas des nouvelles règles qui ont été appliquées et qui étaient annoncées avant. Et YouTube précise bien qu'il est autorisé la diffusion d'une vidéo contenant des activités dangereuses si l'objectif premier est éducatif, documentaire, scientifique ou artistique. Et a priori, ça fait vraiment partie du sujet. Donc après, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs dans les traitements qui ont été faits sur les vidéos, je sais pas. Peut-être qu'il faut pas en tirer des conclusions sur les décisions, tu vois, stratégiques de Google et de YouTube là-dessus. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des interventions excessives sur les vidéos de hacking. Mais je me méfie toujours, tu sais, quand il y a des articles qui tombent en disant tel réseau censure telle information. En fait, une fois sur deux, quand tu creuses, c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est pas si simple. Bon, c'est déjà beaucoup une fois sur deux, mais il arrive assez régulièrement que ce soit pas aussi simple. Bon, ça veut pas dire qu'il y a des vidéos qui ont pas disparu.
Non, tu as raison, ça mérite d'être creusé. En tous les cas, si YouTube décide de le faire, ce serait une mauvaise idée. Voilà.
Oui, absolument. Une démarche d'Instagram par rapport à l'envoi de contenu offensant, Guillaume.
Oui, c'est une démarche qui est assez intéressante, je trouve, parce que c'est tout con, hein, c'est-à-dire quand il y aura une fonction qui sera implémentée par défaut, je suppose, ou quand tu écris ton post, tu écris ce que tu vas envoyer à quelqu'un, voilà, ce que tu as, ton commentaire.
Admettons
sur
quelqu'un. Type.
Et voilà, exactement. Et je veux dire, si tu veux lui envoyer tes moches, il y a une IA qui va lire ton post, qui va détecter que c'est pas très gentil ce que tu vas écrire, et qui va te proposer, enfin, qui va te demander, tu es sûr que tu veux envoyer ça? C'est pas très gentil. Non, enfin, il va mettre, c'est pas très gentil, mais bon, il va te mettre un bouton undo pour que justement tu ne l'envoies pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça permet de casser la spontanéité quelque part. C'est-à-dire, va mourir, tu es vraiment trop nul. Ça peut partir très vite, mais si tu y réfléchis à deux fois, est-ce que vraiment tu es sûr de l'envoyer? Peut-être que ça va tout simplement empêcher certains d'envoyer des conneries qu'ils auraient pas, tu vois, c'est des trucs on le pense pas forcément. Est-ce que ça va faire réfléchir? Je sais pas, tu sais, parfois il suffit de tourner la langue trois fois dans sa bouche et ça ira mieux.
Moi, je pense que ce bouton, il fait pas du tout réfléchir, en fait. Parce que mon sentiment, hein, c'est en gros, tu mets ce bouton qui te propose de undo tous les commentaires qui sont disponibles sur une plateforme, quel qu'il soit, pas que les haineux, je suis sûr que ça diminue tous les commentaires dans des proportions à peu près équivalente. Ok, il y a peut-être 1% ou 2% plus les commentaires haineux que tu t'apprêtais à envoyer de manière volontaire que tu vas annuler, mais je suis pas certain que ce soit très 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 différent. Tu vois, je pense que ça nuit tout simplement à l'envoi de l'ensemble des messages.
Mais t'es sûr après, que si... t'envoyer t'es trop beau, je te kiffe, tu crois que ça sera...
Ah, mais
ça
je suis certain. Mais en fait, dans les parcours web, c'est un truc qui est hyper étudié. Les parcours web font que c'est, les gens sont vraiment mais mécaniques, quoi. C'est-à-dire que tu rajoutes un formulaire, un champ à un formulaire, ça se voit pas, mais si tu rajoutes un certain nombre de champs à un formulaire, tu vois la déperdition de formulaires qui ne se remplissent plus à objectif équivalent, quoi. Si tu rajoutes une étape de confirmation en plus, tu le vois immédiatement. Donc je pense que dans le parcours de l'utilisateur, le fait qu'on lui demande une action en plus pour envoyer son commentaire, de toute façon, que ce soit pour dire t'es gentil ou t'es moche, dans des proportions, à mon sens, hein, c'est peut-être moi qui interprète, mais serait à peu près équivalente. Donc en fait, bon, tant mieux si in fine ça réduit les commentaires haineux, parce que ce bouton se déclencherait que pour les commentaires haineux, et après tout c'est très bien comme ça, mais je pense pas par contre que ça participe à faire réfléchir les gens. Mais bon, j'ai peut-être une vision cynique de l'être humain, trop cynique,
c'est possible. Ou peut-être juste lucide.
Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Guillaume, ensuite ? J'étais perdu dans ma diatribe.
Il y avait le RAS, hein, ça avait l'air d'être bonne idée.
Ah oui, le Rapid Alert System.
Exactement, l'Union Européenne, hein, pour se protéger de la propagande russe, entre autres, hein, sur Internet, pendant les élections, avait mis à place un système d'alerte rapide, donc effectivement c'est son nom, le Rapid Alert System. Le but, c'est une plateforme commune où les experts des divers pays européens pourraient signaler les campagnes de propagande, quoi. Mais bon, le New York Times a appris par des enregistrements et des interviews que le système d'alerte rapide donc, n'a pas été super efficace pour agréger les données d'ingérence ou transmettre les alertes. La plupart des États n'ont pas contribué à la base de données, les données qu'elle contient ont tendance à ne pas être analysées, et puis en plus il y a des désaccords sur la gravité des tentatives qui ont également conduit les mecs à éviter de transmettre les alertes. Bon, donc globalement, voilà. Et en plus, pour couronner le tout, la Russie exploite fréquemment des sites web européens et les partis politiques eux-mêmes, hein, qui sont en place pour faire avancer son programme. Mais les analystes de l'Union ne sont pas autorisés à envoyer des avertissements lorsqu'ils proviennent de médias européens. C'est une restriction qui est présentée comme une tentative de protection de la liberté d'expression, mais qui, en fin de compte, limite l'utilisateur du système d'alerte, quoi. Donc, bon, selon le Times, les fonctionnaires affirment qu'il est essentiel de faire preuve de prudence et qu'aucun organe directeur ne dispose d'un système semblable. Dans une certaine mesure, le simple fait d'avoir une base commune pour discuter de l'ingérence aide. J'ai envie d'y croire, même si, bon, voilà, on doit le dire, apparemment, en l'état, ça sert à que dalle.
Ouais, c'est un bilan adopique pour ce dispositif.
Pour l'instant, ouais, c'est un peu...
pour l'instant. Alors, c'est marrant parce qu'on était les premiers à dire tout à l'heure, après tout, lançons des initiatives sur le plan de la loi, sur le plan des initiatives des États, etc. Et puis, il en ressort aussi parfois des choses bien, et puis ça peut s'améliorer. Mais enfin, là, le problème, c'est que ça semble pas forcément viable de l'améliorer non plus, quoi.
Bah, le truc, c'est qu'il faut quand même, si tu veux... Quand t'as un truc qui est pas top, c'est bien qu'il soit là, mais il faut quand même l'améliorer pour qu'il soit mieux, tu vois, c'est le processus.
Tout à fait.
Si tu le laisses en l'état, c'est vrai que ça va pas donner grand-chose.
Et a priori, Facebook fait mieux ?
Ben oui, parce que si l'Europe a encore de gros problèmes à gérer les fake news, Facebook, qui a ses propres soucis aussi quand même, a construit des outils pour suivre les messages sur Facebook et WhatsApp qui parlent de lui-même, et de ses dirigeants, de ses produits, voilà, ou de ce qu'il fait, quoi. Ça, c'est selon Bloomberg. Alors depuis des années, bien sûr, l'entreprise utilise donc ces outils pour, on va dire, étouffer, entre guillemets, des messages qu'elle juge mensongers sur ses services ou sur son personnel. Donc d'après le rapport de Bloomberg, hein, donc évidemment il y a de nombreuses entreprises qui surveillent les médias sociaux pour savoir ce que les clients disent d'eux, mais évidemment pour Facebook c'est assez unique puisqu'elle est propriétaire de la plateforme qu'elle regarde. Et donc ils ont un outil qui s'appelle Storm Chaser qui s'en donne à cœur joie. C'est probablement un seul des outils d'ailleurs qui gère la réputation de Facebook. Alors on lui a demandé, mais si vous l'utilisiez pour les fake news, pas que sur Facebook, mais sur tout le reste, ça pourrait être une idée. Mais ils ont répondu, non, on va pas l'utiliser parce que en fait, c'est pas pour ça que ça a été conçu, ça aurait pas fonctionné, hein. C'est un truc qui a été fait un petit peu à l'arrache, qui cherche des mots-clés, voilà. Bon, c'est pour déterminer s'il fallait répondre à la confusion de produits sur notre propre plateforme. Comparer les deux est une fausse équivalence. Bon, ça ne convainc pas Kevin Roos du New York Times qui écrit « Je vous donne 2 heures pour me faire une dissertation sur la différence entre confusion de produits et fausse nouvelle. » C'est pas complètement clair. Donc voilà.
Bon, bah écoute, très bien. Bah, c'est une initiative, enfin, c'est une remarque à suivre. On va parler une dernière news pour cette rubrique. C'est assez souvent qu'on a, Guillaume, des chiffres pour les manifestations, et on a des chiffres selon les manifestants et selon la police. Est-ce qu'il ne serait pas grand temps de trouver une solution et trouver le vrai chiffre ?
Ben oui, et comment on peut faire ? Ben oui, mais comment on peut faire avec un truc qui est bien à la mode en ce moment ? Ben avec une IA, bien sûr.
Et j'allais dire avec le Bitcoin, mais je ne voyais pas moi-même. Quoi.
Ça aurait été compliqué. Non,
avec une IA.
Les IA sont bonnes à reconnaître les visages, il paraît. Alors pourquoi ne pas leur demander de les compter sur les photos ? Alors c'est presque ça, hein. C'est l'idée d'un professeur hongkongais qui s'est associé à l'université du Texas et une boîte d'intelligence artificielle locale qui a la spécialité d'isoler et de suivre les formes en mouvement. Voilà, donc ça tombe bien. Alors, c'était avec les moyens du bord. Hein.
Ça n'a pas été
ils
évident.
Ont eu 7 iPads sur 2 passerelles différentes sur le parcours de marche. Et oui.
Je me serais imaginé à tout sauf à des iPads comme matériel
c'est,
pour faire ça.
C'est pour ça, c'est marrant. Mais bon, justement, ils voulaient pouvoir avoir du matériel très facilement transportable et pour être très mobile. Bon, les manifestants donc, étaient comptés lorsqu'ils traversaient une sorte de ligne virtuelle. Ils ont installé les programmes dessus, etc. Et bon, ils ont donné un comptage qui a compté 265 000 manifestants, si on en croit les algorithmes. Du coup, bah, c'est plus proche du chiffre des forces de police, hein, qui était à 190 000, que de ceux des organisateurs, qui étaient quand même à 500 000. Bon, l'algo est robuste, assure-t-il, hein, il détecte même les parapluies. Alors c'est quand même pour dire. Bon, cela dit, on espère qu'il est plus robuste que celui de la Metropolitan Police anglaise, hein, dont les algos de reconnaissance faciale ont été audités par l'Université d'Essex. Alors, la tech avait été testée, on avait sans doute parlé, dans 10 endroits, et il y en a 6 qui ont été passés à la moulinette des chercheurs, qui ont communiqué un chiffre qui n'est pas très très flatteur, de 81% d'échecs. Ça fait quand même beaucoup. Alors évidemment, la MET, pas la méthamphétamine, hein, la Metropolitan Police, et surtout son président, Ken Marsh, contre-attaque en disant que c'est injuste de dire ça, d'abord.
Mais
bon, ça correspond, parce que ça correspond au nombre de personnes signalées sur le nombre de ces personnes qui sont effectivement des criminels. Et donc là, c'est 42 matchs, et 34, par contre, se sont révélés être de parfaits innocents très très gentils comme toi et moi. Par contre, si on compte le nombre de bonnes correspondances par rapport au nombre total de visages vus par la caméra, alors là, on tombe à 0,1% d'erreur. Bon, alors d'ailleurs, Ken Marsh enfonce le clou et affirme que l'outil est une valeur inestimable, hein, et même sans qu'on lui demande d'ailleurs, il ne cache pas son admiration pour la Chine, qui est tellement en pointe dans ce domaine. Mais d'ailleurs, la MET, à n'en pas douter, va la rattraper bientôt, c'est tout le mal qu'il lui souhaite. Bon, mais au moins, c'est clair.
On espère qu'effectivement, l'IA n'est pas anglaise, du coup. Merci Guillaume pour toute ta compilation. Retournez voir hein, les news qui sont dans les notes. Vous avez tous les liens qui ont inspiré à la constitution de ces petites rubriques et pour cette revue complète si vous voulez creuser les sujets. On continue et on enchaîne avec la rubrique En bref où on va essayer de vous mitrailler plein de petites news pour lesquelles on pense qu'il y a moins matière à débattre que les précédentes news. La première, c'est bien évidemment la panne Facebook qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a amené à ne plus voir les images sur Facebook, Instagram et WhatsApp. C'est ballot. Et à la place, qu'est-ce qu'il y avait ? Bah, je vais te le dire, Guillaume, parce que tu ne devais pas être sur les réseaux sociaux.
Non, j'ai pas trop vu, non.
Les alt des images, donc les textes qui sont configurés quand on code une page web pour remplacer l'affichage d'une image si jamais ça fonctionne pas. Et là, il y avait les résultats d'une intelligence artificielle qui passe sur les photos. Donc, au lieu d'avoir la photo de profil d'une personne, telle que vous aviez l'habitude d'avoir, ça pouvait la décrire comme par exemple une personne qui fait la tête en train de danser, plage, soleil, etc. Enfant, extérieur. Bon, bref, vous voyez, une IA qui est évidemment hyper performante et qui a fait peut-être un peu froid dans le dos puisqu'on a réalisé à quel point toutes les photos, nos photos, pour ceux qui ne le savaient pas encore, sont passées par les moulinettes des IA des réseaux sociaux. Et évidemment que c'est que le début. On nous parle robot, Guillaume.
Oui, Atlas, encore Boston Dynamics, donc, a créé le robot Atlas pour la DARPA. C'était pour le DARPA Challenge en 2013. Et bon, à l'époque, donc, ce robot était capable de marcher, mais il était. Chaque pas devait être. Il était manipulé par un manipulateur humain, voilà, par un opérateur humain. Donc, en fait, il devait savoir chaque pas. C'était vraiment une sorte de truc télécommandé. Et du coup, il y a énormément de progrès qui ont été faits là-dessus. La dernière vidéo montre que Atlas est désormais capable de mapper son environnement en 3D et de voir où est-ce qu'il va aller, où est-ce qu'il va placer ses pieds de manière optimale. Ça fait qu'il, du coup, il est capable de passer par des petits espaces, il est capable de marcher sur des terrains très irréguliers, voire instables. Il est même capable de marcher sur des petits trucs, des trucs qui sont plus étroits que ses propres pieds, ce qui apparemment lui posait de gros soucis. Donc voilà, il fait de gros progrès, il est vraiment très c'est assez intéressant, donc allez voir la vidéo. Donc le lien est dans les notes de l'émission. Et puis je profite de cette petite news robot pour parler d'un sujet que j'ai récemment découvert et qui avance aussi. Alors du coup c'est bref, ça va peut-être pas être si bref que ça, mais bon, faut peut-être en parler. C'est le domaine des event cameras ou caméras événementielles. Alors je sais pas trop comment traduire ce truc-là. Le principe c'est de faire un capteur optique qui soit plus proche de la rétine humaine. Donc en fait la rétine et le cerveau ne traitent pas des images comme on coupe le webcam ordinateur. Tu vois, il y a pas de succession d'images qui sont envoyées par la rétine au cerveau. C'est pas comme ça que ça marche. La rétine en fait elle réagit aux variations de luminosité. Et elle envoie des messages que quand il se passe quelque chose. Donc ça a d'énormes avantages, hein, puisque les quantités de données manipulées sont largement moindres, puisqu'on élimine en fait toute la redondance temporelle des images. Du coup, on peut faire des capteurs ultra rapides, et qui consomment vraiment très peu. Et donc ça existe déjà, il y a le Dynamic Vision Sensor qui existe déjà, donc qui au lieu d'envoyer une image 60 fois par seconde, donc une matrice de pixels 60 fois par seconde, ben non, là il y a une matrice de pixels indépendants qui se déclenche chaque pixel, quand un événement survient. Donc quand il y a un changement devant lui, le pixel, ben, il signale l'événement. Donc globalement, il dit il y a eu un événement, il le redate, il dit à quel moment il y a eu l'événement, et la précision du capteur peut atteindre la microseconde. Et donc ensuite, ce qu'on a, ben, c'est une espèce de gros paquet de données, et l'enjeu c'est de regarder ce log, et de reconstruire l'objet spatio-temporel, qui a été le moment d'observation du capteur. Et pour les robots, l'avantage, c'est énorme, parce que c'est ultra rapide. Ils peuvent réagir très rapidement. Il n'y a pas de trou, en fait. Une caméra normale, elle est aveugle entre deux frames, alors qu'une caméra à événement, elle produit un flux continu de données. Donc, il n'y a pas d'éblouissement, puisque, évidemment, c'est oui ou non, quoi. C'est juste des événements qui se passent, donc il n'y a pas de problème d'exposition non plus. En plus, les données se prêtent bien naturellement au repérage inside-out, hein, qu'on trouve désormais dans les casques VR, mais avec des résolutions temporelles qui sont beaucoup plus grandes, et ça permet par exemple une très bonne stabilisation de l'image. Donc si le robot marche sur un terrain accidenté en forêt, par exemple, bah, sa vision peut rester stable, peut être compensée et rester stable. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe pour nous, hein, je veux dire, quand tu marches dans la forêt, t'as pas l'impression que ta vision tremble comme ça, t'as l'impression de quelque chose de complètement stabilisé, c'est exactement ce que fait le cerveau aussi. Et comme il n'y a pas de redondance, on peut faire des algos de suivi d'objets qui prennent très peu de puissance machine. Donc tout ça existe déjà, c'est un domaine de recherche actif. Et la dernière news sur le sujet vient d'un labo de l'université de Zurich qui cherchait à reconstruire une vidéo à partir des données brutes du senseur à événement, comme ça. Et c'est pas si facile, hein, et déjà parce qu'il manque des données au capteur, il manque des données de couleur. Mais le truc, c'est qu'ils ont employé des réseaux de neurones auxquels ils ont montré des quantités énormes de flux simulés. Donc il y a des vidéos, et puis ils en ont dérivé des flux d'événements, et ils ont montré les deux, un réseau de neurones, et donc le réseau de neurones est entraîné à reconstruire le flux vidéo à partir du flux d'événements. Et donc tu lui envoies le flux d'événements, et lui il fabrique une vidéo en noir et blanc. Si tu lui envoies des données colorées avec des filtres colorés, ben, il peut même fabriquer une vidéo en couleur. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il le fait en temps réel, il le fait très très vite, et mais il y a des petits bonus. Par exemple, il y a une vitesse qui peut atteindre les 5400 frames par seconde. Donc tu peux faire du slow motion pour l'instant aucune autre machine ne peut le faire. Il y a une correction gratuite des saturations lumineuses, parce qu'il y a une sorte de HDR gratuite. Et en plus, il y a des petits algos simples qui peuvent être implémentés pour le suivi d'objets ou le repérage 3D. Parce que, évidemment, comme on repère que les choses qui sont en mouvement, c'est plus simple en fait de repérer les schémas qui bougent dans une image. Donc, c'est une technique qui est très prometteuse, hein, pour les robots, mais pas que, enfin, hein, ça peut être peut-être tout type de capteur, ce type de capteur peut-être pourra être utilisé dans nos téléphones un jour, et sûr qu'elle sera complètement, on va savoir. C'est assez intéressant de voir ce truc-là. Et les slow motion qu'ils ont fait avec des capteurs comme ça sont impressionnants, donc dans la vidéo, encore une fois, dans les notes de l'émission.
Je n'aurais pas imaginé que ça pouvait être un champ de recherche, et en fait avec du recul évidemment que ça l'est, que d'augmenter comme ça cette fluidité dans la captation des images, et de ne pas se contenter du nombre d'images par seconde. Je pense que c'est vraiment une approche intéressante. Alors dans un tout autre registre, tu sais que c'était la guerre, hein, entre Amazon et Google, ça devenait deux enfants dans la cour d'école qu'on n'arrivait plus à empêcher de se chamailler. Ils ont définitivement mis fin à cette à cette mascarade. Ils ont sorti un communiqué de presse croisé. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il y a le retour de l'application YouTube sur les produits Fire TV, donc les petits sticks hein, que vend Amazon. Et puis, la prise en charge du protocole Chromecast par l'application Prime Video. Ouais, je pense que c'est pas inintéressant parce que c'était vraiment quelque chose de pénalisant pour pas mal de consommateurs. Et donc, c'est toujours quelque chose de positif à souligner. Un petit détail, il y a quand même les Echo Show qui n'ont quand même pas encore accès à YouTube. Bon, ça devrait revenir, mais c'est pas encore ça. Avec Alexa, les rappels, Guillaume ?
Bah Alexa, il y a quelques petites news autour d'Amazon quand même cette semaine. Alors d'une part, il y a donc l'information selon laquelle, ça y est, c'est confirmé, Alexa donc vous enregistre quand vous parlez, effectivement. On savait déjà que occasionnellement il y avait des opérateurs qui étaient en charge de vous écouter, de faire les correspondances avec les commandes.
On en avait parlé, effectivement.
On en avait parlé. Bon, bah là, tout simplement, hein, l'Amazon a confirmé que les données étaient de toute façon conservées indéfiniment, sauf si vous les éliminiez explicitement. Donc par défaut, tout ce que vous dites est conservé et ad vitam aeternam. Bon, voilà, donc ça peut pouvoir effectivement faire un petit peu réfléchir. Toujours dans la technologie et Amazon, ça commence à devenir une grosse mode d'envoyer des myriades de satellites pour faire de l'internet de l'espace, et du coup cette fois c'est Amazon qui fait ça. C'est le projet Kuiper, et donc il a demandé à la FCC la permission de lancer 3230 satellites pour, bah, toujours pareil, hein, c'est-à-dire faire un réseau qui permettrait d'amener Internet aux gens qui ne l'ont pas, un Internet évidemment très haut débit. Bon, même truc, à même conclusion que pour les SpaceLink et compagnie, les Starlink et compagnie. C'est-à-dire, oui, ça fait rêver, c'est assez impressionnant, c'est très très impressionnant, mais est-ce que c'est pas un petit peu abusé, plutôt que juste mettre des câbles par terre? Bon, je sais pas trop, on verra s'ils ont eux aussi la permission de le faire. Enfin, c'est vrai que je suis de plus en plus réservé face à cette espèce de course à l'espace et aux microsatellites qui me paraît un petit peu exagéré, quoi.
Ce qui m'avait interpellé particulièrement, moi, c'était la durée de vie hein, de ces appareils. Enfin, c'était lors de quelques années, finalement. Enfin, c'était pas énorme, ce qui me semble complètement dingue. Mais...
Ouais, comme pareil, un bon gros câble, encore une fois.
Effectivement. Mais peut-être qu'on va me dire que le câble, à l'échelle de 10 ans, il sert plus parce qu'il est saturé. J'y crois pas trop, mais bon. Le juste prix, Guillaume.
Oui, Jeff Bezos. Mais oui, parce que bon, on avait parlé du divorce de Jeff Bezos, bien sûr. Et du coup, Jeff Bezos a divorcé de Mackenzie Bezos, et oui, il y a eu un accord, et cet accord, c'est 38 milliards de dollars pour Mackenzie Bezos et tout le reste pour Jeff Bezos. Ce qui fait qu'il s'en sort vraiment très bien, Jeff Bezos, puisqu'en fait, il garde la totalité de la totalité de Blue Origin, et il garde la totalité du Washington Post, il garde 75% des actions Amazon, donc il est toujours majoritaire, il est toujours maître d'Amazon. Et donc finalement, il a été délesté que de 38 milliards de dollars. C'est pas non plus si grave, hein, puisque bon, il a quand même encore 121 milliards de dollars. Donc c'est quand même pas si, voilà, on va pas pleurer non plus.
Alors, il en reste quand même un petit peu.
Voilà, ça fait quand même de Mackenzie Bezos la quatrième femme la plus riche du monde, ce qui est à noter. Donc tant mieux pour elle.
Tant mieux pour elle, effectivement. Et un petit mot de Andy Rubin, le cofondateur d'Android, pour qui on reparle, évidemment, on n'en parle pas sous l'angle 100% tech.
Non, mais c'est un divorce, et c'était quand même assez, assez fort. Donc, il y a le divorce de sa femme, et sa femme l'accuse d'avoir dirigé un véritable sex ring, c'est-à-dire une sorte de club sexuel, un club secret où se déroulaient des parties fines. C'est assez, c'est assez savoureux, donc on l'accuse d'avoir dépensé des centaines de milliers de dollars pour avoir des faveurs sexuelles et entretenir des relations avec d'autres femmes. Et il y a même des relations de propriété, c'est-à-dire qu'il louait des femmes à d'autres, certains de ses potes. Donc voilà, c'est que de la très très grande classe. Donc la réputation d'Andy Rubin était déjà quand même bien entamée, hein. Et puis là avec le divorce, ça va pas s'arranger du tout.
Tu sais que je peux jamais m'empêcher, moi, d'avoir la présomption d'innocence en tête et de me dire, faut qu'on fasse gaffe, quoi. Bon, oui, ok, bon, ça sent mauvais pour ce monsieur, mais ça m'interpelle toujours parfois quand on.
Oui,
quand
c'est
on
pas
parle
prouvé.
Ce
non, mais c'est vrai que c'est pour l'instant, on n'a pas de preuve, on va pas dire, c'est comme ça, c'est juste sa femme qui l'accuse de. Voilà.
Et pourtant, quand tu regardes comment on parle de lui, enfin, c'est. Et même si c'est avéré, enfin c'est dégueulasse, hein, c'est vraiment pas le genre de truc que n'importe qui peut cautionner, mais on va vite quand même en lynchage sur l'environnement de la news en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. General Motors a décroché le pactole, Guillaume.
Oui, quelques news autour de la voiture autonome et de gros sous, toujours du gros sous. Donc General Motors a reçu des investissements de SoftBank, donc la grosse boîte japonaise qui investit aussi à tour de bras. Donc voilà, c'est pour la division autonome. Donc General Motors a une division qui s'appelle Cruise Automation, et Cruise Automation a désormais recueilli 7,25 milliards de dollars au cours de la dernière année, et donc voilà, son personnel va doubler. Il y a énormément d'opportunités pour améliorer techniquement les solutions de General Motors, qui sont aux anges, bien entendu, et qui donc vont utiliser tout ça pour faire des super voitures autonomes. Donc ça continue, ça ne fait que s'accélérer.
Toujours dans les véhicules autonomes, il y a une discussion concernant les voitures connectées, il y a une discussion dans l'Union européenne sur le choix d'un protocole de référence pour les communications, pour justement les voitures connectées. Et il y avait un débat, s'affrontait. C'était quoi à l'époque ? C'était le Blu-ray et le HD disque ? Non, je ne sais plus. Il y avait deux,
HD
deux
DVD,
trucs. Ouais. Le HD DVD. Bon là, c'était la 5G et le Wi-Fi qui s'affrontaient, et il fallait trancher. Et il y avait des marques comme Renault, Toyota qui préféraient le Wi-Fi, mais il y avait quand même une grande majorité qui préférait la 5G, juste pour dire que c'est la 5G qui a été choisie. C'est intéressant de voir que c'est une technologie qui n'est pas encore installée et éprouvée, mais qui va être retenue comme étant un standard pour les véhicules connectés. Et quand on met ça en lumière des premières rubriques de news, on sait qu'il y a un complètement incontournable sur le sujet, ça en dit long. On continue à parler de véhicules autonomes, Guillaume ?
Oui, des véhicules autonomes toujours, mais cette fois, c'est des véhicules qui volent. C'est assez... Alors, moi, je ne savais pas, je ne savais pas exactement comment ça se passait, mais effectivement, les gros appareils peuvent donc déjà atterrir de manière autonome, sauf qu'ils le font avec des informations qui viennent du sol. Ils ne le font pas de manière totalement autonome. Et du coup, bah, il faut le faire. Et donc, il y a des chercheurs de l'université de Munich qui ont mené des expériences avec un petit bimoteur qu'ils ont réussi à faire atterrir tout seul de manière totalement autonome, cette fois sans aucune autre aide, uniquement grâce à donc des données visuelles, donc une caméra, et aussi évidemment toutes les données des capteurs et des données GPS. Bon, voilà, le mec avait l'air très très tranquille, alors qu'il était, il se faisait donc atterrir par l'ordinateur. C'est un pas de plus, clairement un pas très très significatif vers des vols totalement autonomes, ce qui est, je pense, plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc c'est un truc de plus. Alors, on peut continuer sur la lancée des avions avec
KLM. Il touche la manette quand même à un moment, hein, au passage. T'as vu,
il a triché ? Tu crois qu'il a triché ?
Ouais, il triche à 1,43, il touche un peu la manette.
Ouais, mais est-ce que c'est significatif ? Est-ce qu'il le corrige ?
Ah, je sais pas.
Il le corrige, tu crois ?
Et c'est pour ça que quand tu dis qu'il avait l'air tranquille, en fait, je gardais à l'esprit le fait que il a juste les mains sur les genoux, mais il devait effectivement...
Il devait suer à grosses gouttes.
Après, en même temps, je pense que si jamais il voit qu'il y a un truc qui se passe pas bien, il peut réagir super vite. Donc,
Je pense qu'il peut débrayer immédiatement le système et reprendre les commandes.
C'était prévu pour. Excuse-moi, je t'ai coupé.
C'est pas grave. Hein. Oui, donc après, je voulais enchaîner avec les avions, avec KLM, donc la boîte hollandaise d'aviation qui, de manière assez rigolote, fait passer des messages écolo sur son site web, et donc des courtes vidéos qui posent trois questions à ses clients. Par exemple, est-ce que vous devez vraiment vous rendre à un meeting pour avoir, est-ce que c'est obligé que vous soyez face à face, est-ce que vous pouvez pas faire ça à distance, est-ce que vous pourriez pas prendre le train à la place, ou est-ce que vous pourriez pas compenser vos émissions de CO2, par exemple, par en faisant autre chose, ou tout simplement en prenant moins de bagages. Donc c'est pour c'est cette espèce de truc de voler un petit peu plus éthique. Alors c'est des débats qui agitent aussi beaucoup en France. Il faut savoir que en ce qui concerne la France, le transport concerne presque 30% des émissions de CO2, c'est quand même assez énorme. Alors c'est la voiture individuelle quand même qui a encore fait 15,7% de ces trucs-là. Les vols, par contre, si on prend les vols intérieurs, c'est que 0,8%, donc c'est quand même pas énorme. Cela dit, c'est pas non plus c'est pas à négliger, parce que ça fait quand même beaucoup de choses, effectivement, si on peut y aller en train, c'est toujours mieux, je suppose.
Ouais, j'imagine, effectivement. Des petits sujets autour des accès à la légalité pour les trottinettes électriques. Par avance, mes excuses, il me semble pas que vous en ayez parlé avec Nico, Guillaume, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement. Mais il y a Anne Hidalgo qui a présenté une série de mesures dans le cadre d'une conférence de presse à Paris, donc spécifiquement sur les trottinettes électriques. La décision est que leur stationnement sur les trottoirs sera interdit dès ce mois de juillet là, donc il est maintenant interdit de garer des trottinettes sur le trottoir ou de circuler même dans les parcs et les jardins. Il faut les stationner dans les emplacements vélo. Je sais pas quelle est la réalité de ce qui se passe à Paris, mais bon, j'imagine que ça doit être respecté. Et au passage, elle est aussi allée un petit peu plus loin que la limite de 25 km/h qui est en vigueur, et elle veut brider la vitesse des trottinettes à 20 km/h et même dans certaines zones, la brider à 8 km/h. Bon, ça se demandait si au bout d'un moment, ça va devenir encore intéressant d'utiliser une trottinette électrique quand même. Enfin bon. Vous aviez parlé ou pas du Raspberry 4 ?
Oui, on avait parlé, on était très contents. Enfin, en tout cas, moi, j'étais très content.
Vous n'aviez pas encore parlé des petites mauvaises nouvelles.
Non, malgré ça, on avait parlé à sa toute sortie du Raspberry 4. Et là, le Raspberry Pi 4, il a un petit problème qu'il convient quand même de rappeler. C'est qu'il a un port USB-C pour l'alimentation qui n'est pas parfaitement compatible avec la norme USB-C et qui pose problème avec certains transformateurs, certains adaptateurs. Alors en fait, le problème, c'est que globalement, ils utilisent. C'est un problème de câblage, quoi. Ils ont câblé ça de manière à faire des économies. Et le truc, c'est que en faisant des économies, ils brisent la compatibilité, ce qui fait que certains chargeurs intelligents, qui donc négocient avec le device pour savoir qui il est et combien d'énergie il faut lui envoyer, ne le voient pas comme un appareil Raspberry Pi, mais comme un truc, comme une... comme des haut-parleurs, en fait, globalement, et du coup, ils refusent de les charger. Donc il faut se rabattre sur des chargeurs qui sont complètement débiles, c'est-à-dire qui sont pas intelligents, qui ne négocient pas. Et donc tous ceux qui sont marqués d'un petit E ou qui sont totalement compatibles pleinement compatibles avec leur USB-C, pourraient ne pas marcher avec leur Raspberry Pi. Donc il faut des trucs qui sont un peu débiles et qui sont un peu plus basiques, comme la Switch, je crois. C'est la Switch aussi possède ce genre de problème, il me semble. Ou évidemment le truc, le chargeur officiel de Raspberry.
D'accord. La Switch, je l'avais pas en tête au passage. Il y a des petits chiffres juste pour donner la dimension parfois de certaines choses. En 2019, Apple vendra plus de montres que l'ensemble des fabricants suisses. Donc bon, c'est un truc qui est quand même arrivé et qui n'est plus considéré comme, je pense, anecdotique. Un petit mot aussi, quand on parle d'Apple, on se moque beaucoup d'Apple et des dongles, tu sais, les nouveaux MacBook qui ont tous des ports uniquement USB-C, où il faut brancher des adaptateurs pour pouvoir brancher nos bons vieux câbles USB-A ou tous les autres câbles d'ailleurs. Et Sony a vanté les mérites d'un nouveau petit ordinateur portable, VAIO là, avec une image que je trouve tout sauf séduisante, moi personnellement, mais bon, où t'as de toutes les connectiques possibles qui sont branchées. On va du FireWire au VGA, l'USB de tous les types, l'USB-C pour la recharge, le port SD, enfin, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Mais en fait, je suis pas sûr d'être fan de ça. Moi, je préférerais que tout le monde s'adapte à l'USB-C, tous les appareils, et évidemment, plus que tous les autres, l'iPhone, évidemment. Et je préférerais que tout le monde utilise un seul et même type de port qui m'a l'air de recueillir pas mal d'engouement. Effectivement, il y a certains endroits où le VGA doit être encore un truc qui doit traîner un peu partout. Mais enfin bon, de vanter les mérites d'un laptop qui a ces connectiques-là, moi, ça m'interpelle un petit peu. Et puis, un dernier mot pour dire que, quand on parle d'Apple, il y a la gamme des MacBook qui a été rationalisée. Il n'y a désormais plus de MacBook tout court, les 12 pouces. Il n'y a plus que des MacBook Air et des MacBook Pro. Il y a les prix qui ont été un peu revus aussi. La gamme des MacBook Pro attaque dès le début avec la Touch Bar, un peu moins cher, etc. Et par contre, c'est la fin, désormais, des ordinateurs portables Apple, dont les disques et dont le stockage, le SSD, donc, n'étaient pas soudés sur la carte mère. Désormais, ils sont directement tous soudés sur la carte mère. Donc, à partir de maintenant, quand on achète un MacBook quelque chose chez Apple, on sait qu'on ne pourra jamais, jamais remplacer le disque. C'est fait. On avait parlé, Guillaume, d'une rumeur qui arriverait avec un Firefox payant. Ça y est, on en sait plus. De quoi s'agit-il ?
Alors Firefox ne devient pas payant, mais Firefox va proposer vraisemblablement une sorte de version premium pour la navigation, puisque avec $5 par mois, tu auras accès à probablement une liste assez large de sites web de news qui sans aucune pub. Voilà, donc il y aura des fonctionnalités comme ça. Ça ressemble un petit peu à l'offre d'Apple, quelque part, cette espèce de News+. Bon, moi je dis pourquoi pas, c'est peut-être aussi un moyen de consulter de la news sans léser forcément les sites, mais de manière confortable, sans léser forcément les sites, et c'est peut-être aussi plus simple que de devoir s'abonner, parce que tu sais que maintenant il y a aussi des trucs premium sur plein de sites, il faut s'abonner à tous les sites, donc évidemment c'est $2 par mois. Si tu consultes 15 sites, ça devient vite un petit peu pénible, quoi. Donc ça pourrait être intéressant.
Il y a des petits détails pour lesquels je ne serais pas insensible. Tu sais que Pocket fait partie maintenant de Firefox et de Mozilla, hein, avait été racheté, qui est mon service de lecture d'articles différés que j'utilise toujours. Il y a des versions premium de Pocket auxquelles je n'ai jamais souscrit parce que pour le coup, je trouve ça très cher par rapport à ce que ça apporte. Pour autant, si jamais j'avais un navigateur de ce type-là avec les vertus que tu as décrites à 5€ par mois et qui me propose aussi les fonctions premium de Pocket, je pense que je prendrais, moi. Je serais pas contre. Allez, on parle de smartphone pliant, Samsung, Huawei, c'est assez régulièrement qu'on vous en parle, mais on n'avait pas vu venir celui de Sony, qui serait peut-être bientôt prêt, Guillaume ?
Oui, enfin, bientôt prêt, non, peut-être pas non plus bientôt prêt. Apparemment, il y a un nouveau design qui s'appelle Nautilus, qui serait en étude chez Sony, et donc Xperia F serait dans les tuyaux, avec on n'en sait rien, voilà, ce serait un display, donc un écran de chez LG, il y aurait une grosse caméra, un bon SoC, enfin en tout cas, très honnêtement, c'est juste une fuite, il n'y a vraiment rien de très très concluant pour le moment, hein. Snapdragon 855, oui, la belle affaire, donc pour l'instant, on n'en sait strictement rien, sauf que oui, quelle surprise, Sony aussi planche sur des designs potentiellement pliants, bon, bah, oui, ça me paraît assez clair, c'est évident.
Un truc qui est plus intéressant, ce serait plutôt Samsung qui aurait une vision à long terme, enfin à moyen terme même, dans 5 ans, où en gros, on dirait que tout ne serait plus évidemment basé sur le smartphone. C'est vrai que ça reste encore aujourd'hui très 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 central, mais il semblerait que ce soit la vision du PDG de Samsung qui dit que lorsque la 5G et l'internet des objets seront disponibles ensemble, nous devrons penser aux objets intelligents plutôt qu'aux smartphones. Bon, ça reste quelque chose qu'on peut attendre. En même temps, ça me paraît quelque chose qui me paraît hyperactif vu comment ça s'est installé et ça a créé des usages. Je vois pas encore comment demain, même dans 5 ans, on pourrait avoir remplacé le smartphone par une myriade d'appareils connectés. Peut-être que ce sera le cas. Je sais pas si ce sera une bonne nouvelle pour la planète. Déjà que le smartphone n'était pas forcément une bonne nouvelle, mais bon. On va passer au bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de cet épisode de Tech Café ?
Alors, je sais que tu voulais en parler, mais c'est vrai que mon bonus, c'est aussi Stranger Things, hein, oui, parce que je viens juste de terminer. C'est un peu le phénomène du moment, il faut dire que même Microsoft fait la pub en proposant Windows 1.11, qui est donc pas dispo en tout cas, okay, au moment où on enregistre. C'est dommage, parce que bon, ça a l'air marrant, même si bon, probablement un DOSBox pourrait être plus indiqué, hein, si tu veux une expérience un petit peu plus authentique, mais bon. Il y a aussi une borne d'arcade et un vrai Camp Nowhere qui se prépare avec pour les élèves de 13 ans et plus, hein, pour apprendre à coder, donc le Camp Nowhere qu'on voit sur la casquette de Dustin, Dustin en revient apparemment. Donc Stranger Things divise, j'ai l'impression, parce que bon, ouais, ça s'assume en tant que patchwork, hein, que méga compile de référence 80, et la mise en abîme du show, moi, me plaît bien, en fait. Et cette saison, c'est vrai qu'elle va encore beaucoup plus loin, donc on change complètement de set de référence, hein. On a du John Carpenter, du Alien, du James Bond, ouais, et mais on a aussi pas mal de rom-com des années 80, en fait. Et c'est beaucoup plus comédie et autodérision que les autres saisons. Ça aborde vite fait des thèmes comme le sexisme, le patriotisme, le capitalisme aussi, mais ça s'amuse beaucoup des clichés et ça va jusqu'à se pasticher soi-même, en fait. Hein. À tel point qu'on ne sait plus si on est dans la référence, dans la satire ou juste dans le premier degré un peu neuneux. Bon, du coup, c'est une saison qui est assez intéressante. Moi, je l'ai pris plutôt comme une satire. Peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien. Mais surtout, il y a un truc qui me fait prendre Stranger Things comme bonus, c'est que la réalité rejoint la fiction, c'est assez formidable. Juste après avoir quitté Hawkins jusqu'à l'été prochain, je tombe sur un article très sérieux de la NBC qui explique qu'une certaine Léa Broussard, au Oak Ridge National Laboratory, va envoyer un faisceau de neutrons hyper énergétiques sur un énorme mur pour ouvrir un portail vers un monde miroir. Je rigole pas, hein, c'est véridique. Mmh. Il s'avère que les neutrons ont une particularité, hein, leur durée de vie semble varier selon les conditions dans lesquelles ils sont, ce qui est, alors que ça devrait pas être le cas, et on n'a aucune explication pour ça. À moins qu'il existe un autre monde parallèle miroir au nôtre, dans lequel les neutrons peuvent exceptionnellement osciller. Alors c'est très théorique pour l'instant, d'ailleurs même Léa Broussard n'y croit pas complètement, mais bon, en tout cas, ça mérite d'être testé. Et une manière de le tester, c'est d'envoyer un faisceau de neutrons sur un mur. S'il existe un monde miroir, ben, certains neutrons pourraient quand même passer dans ce monde miroir et en revenir. Donc, en quelque sorte, ils pourraient traverser le mur. Donc, oui, cet été, dans un labo aux États-Unis, on va essayer d'ouvrir un portail vers un autre monde à l'envers. Voilà, ça ne s'invente pas. Si ça marche, ça ouvrira évidemment des perspectives assez folles sur la physique. La matière noire pourrait être peut-être dans le monde miroir, on ne sait pas. Mais bon, il faut quand même faire gaffe aux démogorgons.
C'est le genre de sujet, tu sais, sur lesquels je me dis la vulgarisation scientifique sur beaucoup d'aspects, c'est vraiment formidable. Il y a aussi parfois des travers, parce que je suis à peu près convaincu que les personnes qui versent dans le milieu sont très très loin de s'imaginer ce qu'on s'imagine nous avec univers parallèle. Mais j'ai vu la news aussi et c'est captivant. Et on regardera et on en reparlera si on a des news, bien évidemment. Moi je voulais, je vais terminer plutôt par ça, je vais juste commencer par l'enquête de Lama Fâché. Est-ce que tu connais Lama Fâché, Guillaume ?
Pas du tout.
Alors Lama Fâché, c'est une des chaînes YouTube les plus consultées en France, qui fait l'apologie de contenus complotistes, faux, conspirationnistes, tout ce que tu veux.
J'ai rien raté, alors.
Sous la forme de... Non, absolument. Et c'est très consulté par les adolescents qui trouvent ce contenu-là comme étant une forme de source de référence ou sinon à minima quelque chose d'amusant. Mais il y a Aude qui a une chaîne YouTube qui s'appelle What the Fake, qui est une journaliste et qui travaille de manière générale contre les influences de ce type, pas que sur Internet d'ailleurs, et qui fait des vidéos autour de ça, qui s'était retroussé les manches pour essayer de savoir qui était Lama Fâché, et elle avait mené une enquête. Elle avait pointé du doigt, pour ne pas dire accusé, un entrepreneur qui s'appelle Antoine Blanche-Maison, et ce garçon s'est pris des tollés derrière de messages. Il y a eu vraiment un appel au lynchage en disant c'est toi Lama Fâché, tu devrais avoir honte. Il s'en est pris vraiment très très cher. Il s'en est défendu assez bien, je trouve. Et depuis, il y a Sylvain qui a une chaîne YouTube. Alors ça s'écrit Sylvain, à la place du A, vous mettez un Q. C'est évidemment très technophile comme référence, très geek, et qui fait d'excellentes enquêtes. Je trouve vraiment que tout ce qu'ils peuvent faire sur cette chaîne YouTube représente à mon sens un très 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 gros boulot. Ils avaient fait notamment une enquête sur le plagiat, sur les magazines imprimés. Il y a vraiment des choses captivantes à suivre. En tout cas, Sylvain a fait lui-même cette enquête à propos du Lama Fâché, a trouvé qui étaient les personnes derrière le Lama Fâché, et a du coup un peu décrédibilisé l'enquête de Aude de What the Fake en soulignant le fait que, enfin il a pas insisté dessus, il a été assez en plus soigneux dans son approche, mais ça décrédibilise effectivement complètement le travail qui a été fait par Aude sur le sujet. Tu parlais de... donc va regarder surtout la vidéo de Sylvain sur sa chaîne YouTube sur le Lama Fâché, tu vas trouver ça super facilement et ça vaut le coup d'être regardé sur les démarches qu'il a pour aller savoir qui est derrière une chaîne YouTube. C'est hyper bien, hein, hyper bien amené, très bien expliqué. Tu parlais de Stranger Things 3, donc juste pour dire que bon, moi j'ai surkiffé, mais je pense que je suis très 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 client à la base et que c'est très difficile de me faire influencer dans le mauvais côté de la chose. Juste pour dire qu'a priori, il y a quand même une fuite de tous les épisodes qui ont été récupérés de la version serveur, donc sans perte de qualité. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a des personnes qui ont réussi à péter le DRM créé par Google, qui est censé être le plus complexe et le plus sophistiqué et qui est utilisé par Netflix. Si jamais c'est le cas, bien joué, il va falloir faire évoluer l'algorithme désormais. Et puis, alors c'est pas vraiment un bonus, mais ce sera le tweet du jour, et je vais même pas le commenter en fait, je vais juste le citer. C'est un tweet d'Hervé Morin d'aujourd'hui, donc le politique, hein. Je cite: moi je crois en l'homéopathie, c'est une erreur de la dérembourser. Voilà, je voulais juste citer ce tweet, ça suffira, je pense qu'il n'est pas plus nécessaire que ça, d'en parler, et je fais un petit clin d'œil à Guillaume Promet, avec qui j'échange régulièrement sur le sujet. Guillaume, merci beaucoup pour tout le travail préparatoire et de veille que tu as pu faire une nouvelle fois pour cet épisode de Tech Café. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour échanger avec toi ?
Et potentiellement sur le Telegram de TKF, mais aussi dans les commentaires sur le site de TKF, n'hésitez pas à venir commenter donc pour dire tout le bien que vous pensez de nous, et ou pas, mais de toute façon, on est à la modération.
Ah oui, on est aux commandes, vous en faites pas, et c'est pas de l'intelligence artificielle. Moi c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez partout où, quand vous saisissez dans un moteur de recherche Guillaume Vendée, vous avez des résultats, bah c'est probablement moi, je suis pas très 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 embêté par les homonymes. On va se donner rendez-vous normalement dans une semaine assez vite pour un nouvel épisode de Tech Café, avec peut-être, avec un peu de chance, hein, un invité surprise, un guest, et on aura évidemment d'autres épisodes tout au long de l'été, même si on va faire quelques pauses et on va revoir un petit peu le rythme, on vous en reparlera en temps voulu. Merci beaucoup pour votre soutien pour l'émission et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous. Bye.